Pascal CV. Le midi, on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Bon vendredi, la gang. Bienvenue à l'émission On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1. Comme d'habitude, on va partir ça sur les chapeaux de roue parce que l'actualité est en feu aujourd'hui avec le caucus de la CAQ à Gatineau. Sortie du maire Marchand sur l'exclusion de David Weiser de Québec fort et fier. Donc, on va s'amuser là-dedans à plein régime. Vous le savez, 418-971-1021 pour nous joindre en studio. On est toujours très content de vous lire et d'interagir avec vous. Twitch.tv/BLVD/FM pour nous suivre sur Twitch. Également la web radio sur BLVD.FM. Et j'en profite pour vous mentionner que la meilleure façon de nous écouter partout où vous allez, surtout sur l'heure du midi quand on va faire des petites commissions ou quoi que ce soit, mettez-moi un petit écouteur dans les oreilles. Allez télécharger notre application Boulevard 101 sur App Store et Google Play Store. Et ça va être fait, vous allez pouvoir nous écouter partout où vous allez aller. Si jamais vous êtes à la maison, vous avez un haut-parleur intelligent ou un Alexia, ben faut dire écoutez BLVD. Et comme ça, vous allez arriver sur Boulevard 102.1. Sinon, si vous êtes écouté Boulevard, vous ne serez pas chez nous avec les haut-parleurs intelligents. Vous le savez, on en a parlé hier, Pascal CV prend l'avion aujourd'hui pour aller faire le défi du Kilimanjaro pour la Fondation Cerveau. On lui souhaite un excellent succès. Donc, pour les trois prochaines semaines, c'est mon chum Mathias Turcotte qui va être avec nous. Mathias, comment ça va?
Yes, sir, ça va très bien. Je suis content de revenir avec vous pour vrai. Ça va être trois belles semaines remplies. Ah oui. Je suis à l'université présentement. Je vais continuer mon école en parallèle en venant porter main forte dans le show du midi. Mais écoute, je suis de bonne humeur aujourd'hui, malgré le fait que le soleil ne nous accompagne pas nécessairement.
En effet, tu as bien raison. Le soleil ne nous accompagne pas aujourd'hui, alors que c'était normalement soleil et passage nuageux. On est à 17 degrés, c'est 18 au maximum. Il y a un 60% de possibilité d'averse d'ici la fin de la journée. Par contre, demain, ça va être très beau, 18 degrés ensoleillés. Dimanche, c'est 22 degrés avec 60% de possibilité d'averse. Donc, la fin de semaine devrait quand même bien aller.
Oh oui, on le souhaite. Puis, écoute, on s'en vient vers la fin de l'été.
Ouais.
La pluie commence à arriver, mais ça reste, on garde la tête forte. Les journées sont moins longues.
Exactement.
Mais on a eu un bel été, puis écoute, ça continue. La vie continue de rouler, puis on continue à bien aller.
Ah, vraiment? Puis ça va être un 3 semaines de radio extrêmement formateur pour toi, Mathias, parce que on est en pleine campagne électorale. Donc, de l'action, il va en avoir à Québec, pas à peu près. C'est l'entrée parlementaire aussi à l'Assemblée nationale la semaine prochaine, mardi prochain. Une entrée qui a été retardée de 2 semaines. Donc, la politique va juste exploser la semaine prochaine. Là. C'est aussi simple que ça.
Oui, puis c'est quand même drôle parce que d'habitude, l'été, t'as l'impression que la politique se met sur pause.
Ouais.
D'habitude, t'as pas l'impression qu'une campagne électorale commence 3 mois à l'avance. Mm-hmm. Pourtant, là, la campagne électorale vient de commencer. On a l'impression que ça fait longtemps, mais ça vient vraiment juste de commencer. Puis on le voit, ça s'accélère dans tous les camps présentement. Puis du côté politique, écoute, j'ai l'impression qu'on s'en vient de plus en plus dans un mode où c'est juste ça prend jamais de pause. Puis là, avec la rentrée de la Chambre des communes, avec la rentrée de l'Assemblée nationale, on va avoir du stock en masse à jaser pour les prochaines semaines.
Ah, tellement! On va avoir énormément de stock à jaser. Et là, parlant de stock à jaser, bien, c'est tombé hier. On se disait, quand est-ce que la première tuile va tomber sur la tête de l'équipe de Bruno Marchand? Parce que Québec fort et fier voguait dans une petite campagne électorale tranquille où on annonce de l'asphalte dans les banlieues. Puis pendant ce temps-là, sa maman donne le plan d'en face. Ça n'arrête pas d'exploser dans son cas. Mais là, premier faux pas ou première nouvelle plus négative autour de Québec fort et fier, c'est le retrait hier de David Weiser, qui était justement le responsable économique à la Ville de Québec.
Oui, puis on... Bon, on s'y attendait pas nécessairement. Il n'y avait rien qui l'indiquait. Il n'y avait aucun indice. Ça a sorti hier soir. Puis d'ailleurs, la raison derrière ça, c'est que David Weiser, qui avait caché, en fait, au parti, ben caché, hein. Il avait juste pas transmis l'information. On lui avait pas demandé non plus, mais qui avait fait une faillite en 2017 également. Mm-hmm. Il y avait eu une hypothèque légale de 50 000 $ en 2017, justement, en lien avec des déclarations fiscales de 2012 en 2015. Et la faillite, excusez-moi, c'est en 2021 plus tôt. Donc, Bruno Marchand, qui l'avait appris via le Journal de Québec, qui l'a questionné. Du côté de Weiser, on a un peu tenté de cacher l'information, puis on a fini par l'avouer au Parti Québec fort et fier que, justement, on avait été à travers ces différentes difficultés financières-là. Du côté de Bruno Marchand, ce qu'il a dit, c'est « Bon, le lien de confiance a été brisé. Monsieur Weiser m'a pas mis au courant de cette situation-là. Je peux plus lui faire confiance. » Et justement, aujourd'hui, il a fait un point de presse à 10h au Musée de la Civilisation. Je m'y suis rendu pour justement de parler de cette fameuse mise à pied-là et des différentes vérifications qu'il effectue auprès de ses candidats.
Il a raison, monsieur. Moi, Soissons, il ne nous a pas menti. Il s'est bien comporté. Puis je le crois quand il dit que c'était derrière moi. Je suis passé à d'autres choses. C'est pas ça pour moi qui fait la différence. Mais là, on sollicite un nouveau mandat. Cette information-là, elle doit m'être divulguée. C'est ce que je demande à tous les candidats. On questionne nos candidats sur leur dossier judiciaire. On questionne sur les infractions qu'ils ont commises, criminelles ou non, infractions de la route. On les questionne sur le plumitif, leur taxe fiscale. Est-ce qu'ils ont payé leurs taxes, leurs impôts? Est-ce qu'ils ont payé leurs impôts? On leur demande leur relevé de cotisation des impôts fédérales et provinciales. On demande un paquet de choses justement pour dire... Quel est votre passé? Pas pour qu'on le sorte, pas pour qu'on vous discrédite, mais qu'on sache, est-ce que vous pouvez être élu? Est-ce que ça répond aux valeurs de notre parti? Mais surtout, en fonction de si on est élu, en fonction des fonctions, des pouvoirs qu'on pourrait vous conférer, on va aussi tenir ça en compte.
Puis, il y a beaucoup de vérifications qui sont faites normalement. Si vous vous demandez la question pourquoi il y a eu un passe-droit, parce que visiblement, il y en a eu un.
Oui.
Bruno Marchand n'était pas au courant de cette situation-là. C'est parce que initialement, David Weiser faisait partie d'équipe Marie-Josée Savard.
Exactement.
C'est avec ce parti-là qu'il a été élu. Donc, toutes ces informations-là avaient été transmises justement à Marie-Josée Savard et il n'a pas cru bon, lors du changement d'équipe, de retransmettre ces informations à Bruno Marchand.
Compte tenu que, justement, Marie-Josée Savard avait accepté qu'il se présente avec ce passé-là, là, on comprend que Bruno Marchand aurait aimé que David Weiser le fasse pour se présenter à nouveau sous la bannière de son équipe pour la première fois parce qu'il avait joint l'équipe de Bruno Marchand après les élections, après cette défaite historique de Marie-Josée Savard qui avait été élue mairesse de Québec, puis finalement qui a perdu. Là, c'est Radio-Can qui avait envoyé l'information. Alors, on parle de lien de confiance brisé. Moi, la question que je me pose là-dedans, c'est qui est derrière ce scoop?
Parce que l'équipe
Marie-Josée Savard, c'est Québec d'abord maintenant. Alors, est-ce qu'on avait cette information-là du côté de Québec d'abord et l'on a décidé de faire mal à notre adversaire politique qui est Québec fort et fier? Claude Villeneuve l'a fait la semaine dernière avec Sam Hamad lorsqu'il a sorti sa bombe que Sam Hamad aurait tenu des propos de mafia avec lui en parlant de ses deux petites filles. Donc, est-ce que c'est la façon de faire de Québec d'abord présentement? Faut se poser la question, il n'y a pas de doute dans mon esprit.
Oui, puis je veux dire, ça serait peut-être un signe aussi que justement du côté de Québec d'abord, on pourrait commencer à attaquer de plus en plus Québec fort et fier. Oui. On voit beaucoup d'attaques lancées à Sam Hamad de la part de Claude Villeneuve depuis le début de la campagne, très peu face à Bruno Marchand. Est-ce que c'est eux derrière ça? Si oui, ça pourrait être une première attaque. Puis justement, en parlant un peu des liens entre les deux, là, je tiens à dire que le point de presse du maire Marchand à 10h aujourd'hui, il y avait un point de presse de Québec d'abord qui était prévu à la même heure.
Je crois pas au hasard dans la politique.
C'est difficile d'y croire.
418-971-1021, la campagne politique municipale à l'heure actuelle est très, 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 très sale. On se donne des coups salauds dans les coulisses. On utilise les médias pour passer nos messages. Est-ce que ça vous plaît ou non? Vous avez juste à écrire oui ou non. 418-971-1021. Je veux savoir comment vous trouvez cette première semaine de campagne électorale. Parlant de première semaine de campagne électorale, il y a eu un sondage, mon cher Mathias, dans les journaux de Québécois aujourd'hui, et on mentionnait que Bruno Marchand est en avance de 7 % sur Sam Hamad, 27 à 20, mais il y a encore 27 % des électeurs qui sont indécis. J'imagine qu'on a posé la question à Bruno Marchand.
Oui, forcément, 27% d'indécis, 51% qui veulent changer d'administration. Également, c'est énorme. C'est plus de la, on va arrondir ça à la moitié, mettons. C'est la moitié qui est pour un changement d'administration par rapport à l'administration Marchand. Qu'est-ce que Marchand a à répondre face à ces fameux indécis-là? Voici sa réponse.
Je pense qu'il y a un élan. Je pense qu'il y a un élan qui est positif. Après ça, là, penser que c'est gagné, là, ça serait la pire erreur. C'est ce que j'ai dit au candidat mercredi, sans connaître le résultat du sondage. C'est comme ça qu'on se gouverne depuis le début de la campagne. Chaque jour est une occasion d'expliquer, d'entendre, d'écouter, de travailler avec les citoyens. C'est ça. Ça a l'air cru, là, mais c'est exactement ça. Le travail qu'on a à faire, c'est chaque jour à présenter nos idées, à présenter nos annonces, comme on l'a fait cette semaine. On va en faire une autre demain. On va en faire la semaine prochaine. On a une vision au Québec.
Qu'il y ait autant d'indécis, c'est pas un problème pour vous, après 4 ans, qu'il y ait encore autant de monde qui n'est pas sûr de vous redonner la chance?
Non, mais ouais, mais ça, je vous ai répondu, M. Boisvert, je peux le répéter. On a décidé de faire une politique courageuse qui fait écho aux grands défis de notre époque. Alors, c'est sûr que ça bouleverse. C'est sûr que quand on amène du changement, moi aussi, je suis bouleversé, là. Mais le changement, c'est pas moi qui décide, il nous est imposé par les conditions.
C'est clair que Bruno Marchand va parler de politique courageuse. Dans les faits, c'est une politique qui va à l'encontre de ce que la majorité des citoyens veulent. Et si jamais il est réélu maire de Québec, bien, il va être il va passer comme maire de Québec pour un deuxième mandat en raison de la division du vote. C'est pas en raison des politiques qu'il a mises en place. C'est mon opinion personnelle, mais quand on regarde statistiquement les sondages, c'est ce qu'il faut constater.
Bien, lui, il dit, c'est mon ambition. En gros, c'est mon courage politique. Mmh. Tu l'as dit. Ses positions ne fitent pas avec la majorité de la population.
Exactement.
Sa position sur un troisième lien, la majorité de la population de Québec est pour un troisième lien. Sa fameuse guerre à l'automobile, la réalité présentement dans la ville de Québec, c'est que la majorité de la population de la ville de Québec a une voiture. Est-ce que c'est vraiment à cause de son courage politique que Bruno Marchand a 51% des gens qui veulent le voir partir, ou c'est plutôt à cause de ses priorités en général?
Exactement, de ses priorités, notamment les pistes cyclables, parce que j'ai parlé avec des candidats de tous les partis confondus qui font du porte-à-porte à l'heure actuelle, et comme négatif qui est mentionné à Bruno Marchand, les pistes cyclables reviennent plus que le tramway. On a passé outre du côté de la population en disant, bon, c'est comme si on avait dit, OK, c'est bon, le tramway, il va se faire, le gouvernement veut le faire, c'est des PQ infra et dedans, garde, on ne fera pas l'élection sur le tramway, mais les pistes cyclables, c'est la grogne chez les gens. Alors, c'est clair que ça amène une très grande partie de la population à être indécis et 51% de la population qui veut du changement. Il y avait des priorités dans ce sondage-là, logement, itinérance, mobilité. Qu'est-ce que Bruno Marchand avait à dire par rapport à ça?
Mais la question lui a été posée par rapport au logement, parce qu'on voit dans ce sondage-là, justement, que vraiment, si on regroupe ça un peu par catégorie, le logement arrive quand même priorité numéro un des habitants de la ville de Québec. Puis Bruno Marchand a été questionné, est-ce que vous allez changer vos positions sur le logement? Bruno Marchand, dans un élan très humble, voici ce qu'il avait à dire sur ses positions par rapport au logement.
Bien, on peut pas en mettre plus que ça, là. Je vous ai dit que c'était mes priorités. C'est la première priorité que je vous ai nommée depuis des mois. C'est ce sur quoi on travaille. On a des résultats, autant le logement social que le logement dans son ensemble. Tout ce qu'on a fait en itinérance, le plan ambitieux qu'on vous a présenté. Les critiques qu'on a sur notre plan, c'est « non, c'est trop ambitieux ». C'est ça, les critiques qu'on
Monsieur
a. On va toujours trop loin pour les gens qui veulent aller nulle part. Mes priorités sont à la bonne place, puis on va continuer.
Encore une fois, l'ambition. L'ambition. Oui. Il dit, le logement, c'est ma priorité numéro un. C'est quoi les priorités réelles de Marchand? Est-ce que c'est vraiment le logement? Mm-hmm. Est-ce que c'est vraiment la lutte à l'itinérance? C'est plutôt les changements climatiques qu'on a vus très peu
avec
populaires.
Le fond vert, exactement. Les pistes cyclables, tu sais, c'est quoi? Ça score à 11-10 dans les priorités des gens. En effet, le logement, si je veux être bon joueur, il y en a fait une priorité.
Oui, vraiment.
Depuis 2024, parce que la première portion de son mandat était catastrophique. La preuve, c'est qu'en 2023, on a construit 40% moins de logements que l'année précédente. Alors, depuis 2024, c'est vraiment une priorité. Le gouvernement de la CAQ l'a aidé beaucoup. France-Hélène Duranceau, qui était la ministre d'Habitation, avait un bon lien avec Bruno Marchand. Maintenant, il y a un plan très ambitieux, en effet. Tant mieux si c'est maintenant devenu une priorité pour Québec forte et fière, mais ça aura quand même pris du temps avant qu'on prenne l'élan. Et c'est ce qui me fascine présentement de la campagne de Bruno Marchand, c'est que j'ai l'impression qu'il fait des annonces pour rattraper ce qu'il n'a pas fait pendant 4 ans.
Ah, tu penses? On voit des annonces
les
jour après jour. Ah,
oui. Le logement. T'sais, c'est, ça me laisse présager. Coudon, le gars, c'est-tu trop concentré sur la mobilité? Il a oublié les autres enjeux. Puis là, il est en rattrapage présentement.
Ben justement, Mathieu Boivin, notre collègue de nouveau, lui a demandé, justement, par rapport à sa pratique de faire autant d'annonces durant une campagne électorale.
Les communications de la ville ne font pas de politique. Elles sont indépendantes, donc elles informent les citoyens. Quand il arrive des enjeux, elles le font. Elles n'ont aucun intérêt politique. Il n'y a aucune commande derrière ça. Là, je vais prendre le temps de regarder ce que vous dites.
Habituellement, les annonces sont faites avant les élections. Ouais,
ça, on parle d'annonces qui sont faites à l'heure actuelle par la Ville. Il y a eu une annonce hier pour des subventions d'entreprises innovantes, 1,5 million au total. Aujourd'hui, c'était pour trouver des meilleures techniques de gestion d'eau, 928 000 $. Ça, normalement, on ne voit pas ça pendant une campagne électorale. Les annonces de subventions de la Ville, on les fait avant le début de la campagne. Techniquement, la campagne commence le 3 octobre parce que tu as jusqu'au 3 octobre pour déposer ta candidature. Mais compte tenu que ça a été lancé officiellement, ce 45 jours-là de campagne, le week-end dernier, on n'aurait pas dû voir ça aujourd'hui. Fait que Bruno Marchand profite à l'heure actuelle de son statut de maire pour faire des annonces et venir tenter de chercher l'adhésion populaire.
Ah ben oui, à 100%. Puis la question, c'est, ça commence officiellement le 3 octobre. Bon, la campagne électorale est quand même commencée. Mais est-ce que le 3 octobre, tout à coup, Bruno Marchand va virer sa chemise de bord puis va dire, OK, non, on est 3 octobre, on ne veut plus déposer des candidatures. Fait qu'à partir de maintenant, on ne va plus faire d'annonces. Parce que présentement, il y a vraiment de l'air dans un lancé de faire annonce sur annonce sur annonce. Puis il dit, les communications de la ville, ils n'ont aucun intérêt politique. Ça reste que c'est toi qui es à la gestion de la ville
présentement.
Exactement.
Et normalement, si Bruno Marchand voudrait respecter les bonnes règles de pratique de campagne électorale, les subventions qu'on a annoncées cette semaine n'auraient pas été annoncées là, par la Ville de Québec. Fait que j'espère vraiment qu'on va changer le momentum. Parlant de momentum, le 2 octobre prochain, ça va chauffer, mes amis, en studio dans le retour de Gravel parce que ce sera le face-à-face Bruno Marchand, Sam Ahmad. Ça se passe le 2 octobre prochain. C'est en vue des élections du 2 novembre. D'ailleurs, ne manquez pas sur nos ondes dimanche le 2 novembre en soirée. Il y aura justement émission spéciale, élection municipale. Je vais l'animer. Max Larouche va être là. Normalement, Antonine Iaccarini également devrait être en studio avec nous. C'est jeudi 2 octobre, 16h, le face-à-face. Denis Gravel dans le retour. Ça sera animé par lui-même. On va discuter de 5 grands thèmes. Transport et mobilité, les banlieues versus le centre. Donc, ça va être très intéressant comme thématique. Par la suite, l'économie. La relation avec les gouvernements, on sait, ça n'a pas toujours été facile dans le mandat de 4 ans pour Bruno Marchand. Itinérance, sécurité et Québec dans 15 ans. Ça, j'adore cette question-là parce que je veux voir le côté visionnaire de nos deux principaux candidats. Soyez à l'écoute le 2 octobre à 16h sur les ondes de Boulevard 102.1 pour justement en savoir plus. Ça va être un débat d'une durée d'environ une heure entre Sam Ahmad et Bruno Marchand. On va de ce pas rejoindre un de nos collaborateurs qu'on adore. Il est au bout du fil, Gabriel Giguère, analyste politique senior pour l'Institut économique de Montréal. Mon chum, comment ça va?
Ça va super bien, comment ça va?
Ça va bien. Hey Gab, crème, on l'avait prédit, on recule sur les voitures électriques du côté de la CAQ.
Hey, on fait un petit pas très timide. Faut le dire.
Ouais, c'est ça, hein, c'est timide, hein, parce que là, on est à 100% de voitures électriques en 2035. On va tomber à 90%, mais on va inclure les hybrides rechargeables.
C'est ça. On commence à comprendre que ça va nulle part, cette politique-là. Le gouvernement, plutôt le ministre de l'Environnement, Bernard Drainville, avait la chance de dire, écoutez, on le sait que ça va nulle part. On commence à intégrer des nouveaux types de véhicules. Ça ne fonctionnera pas. Nos cibles ne fonctionnent pas. Plutôt que de dire, écoutez, la politique publique, on s'est trompé. Comme on a vu avec Northvolt, comme on a vu avec Lyon Électrique, c'est pas des bons. C'était pas une bonne politique de subvention, là. C'était pas une bonne politique qui permettait d'adopter ce type de véhicule-là. Abolissons cette politique. Ce qu'on a vu plutôt, c'est de dire, ben, on va faire une contorsion, on va juste aller à 90%. Mais concrètement, c'est quoi le changement pour les Québécois et les Québécoises, là? Cette diminution de 10%-là en 2035 dans l'interdiction. Ce qu'on vient dire, c'est qu'en 2035, les constructeurs vont pouvoir construire 10% de véhicules à essence. Donc, mm-hmm. il va y avoir des chanceux qui vont pouvoir s'acheter des véhicules à essence. Mais très concrètement, le 90%, ce que ça vient faire, parce que c'est un mécanisme de quota, c'est que ça va venir gonfler artificiellement les prix. Et les véhicules à essence vont coûter beaucoup plus cher quand même. Donc là, on passe de ça va coûter vraiment plus cher par rapport à ce qui est interdit. Mais concrètement, ça va être très, très difficile d'acheter ça, puis le gouvernement devrait simplement abandonner cette idée-là si les Québécois et les Québécoises croient que c'est irréaliste et n'en veulent pas, comme c'est actuellement le cas.
Clairement, puis je repense toujours, moi, à la famille défavorisée dans un bloc HLM où il n'y aura pas assez de bornes de rechange. Je vais falloir se lever à nuit pour aller recharger le véhicule. Et là, ben je veux m'acheter un véhicule à essence, mais ils sont rendus trop chers, donc ça fait pas de sens pour cette clientèle-là. Gab, pourquoi tu penses qu'on n'a pas justement juste aboli cette règle-là comme on vient de le faire, justement, pour le projet de loi 97, le régime forestier?
Moi, je pense qu'il y a deux raisons qui sont très claires. D'abord, on veut faire plaisir au lobby. Hein, on le sait, ouais. On met 100 environnementalistes dans une salle, puis on repart avec 400 organisations. Donc, on veut faire plaisir à ces 400 organisations-là. C'est la première des choses. La deuxième des choses, ben, le gouvernement, ça a quand même été sa politique publique. Hein. On a fait 10 000 ans sur cette politique-là pour dire à quel point on était vert, à quel point c'était important. Donc, ça serait en quelque sorte avouer ouais. l'échec de la politique, puis en quelque sorte, si on pousse la réflexion plus loin, peut-être en quelque sorte, l'échec du gouvernement. Mm-hmm. Donc, en ce sens, on est craintif d'aller de l'avant, puis on se dit, bon, on est mesuré, on fait juste retirer 10 points de pourcentage de la cible. Concrètement, ça ne va pas assez loin. Pour moi, c'est un aveu d'échec, là. On voit le gouvernement, il avait l'occasion de prendre le temps de se dire, bon, c'est à un an des élections, cette politique publique-là, c'est un fiasco, abolissons-la. Nouveau cap vers l'avenir. Malheureusement, on n'a pas été capable. On a manqué d'ambition politique, selon moi.
En effet. 418-971-1021, est-ce que vous trouvez que c'est un bon recul de la CAQ ou ça ne va pas assez loin? Oui, si c'est un bon recul. Non, si ça ne va pas assez loin. Tout à l'heure, quand j'ai posé la question là, pour la campagne politique sale à la Ville de Québec, la majorité est contre ce type de politique-là. Gab, tu parlais, mettez 100 environnementalistes dans une salle puis vous repartez avec 4000 organisations. Eh bien, je te fais entendre Magali Picard sur les ondes de Mario Dumont, 99.5 Montréal et à Cube Radio. Hier, on va comprendre que les syndicats, dans l'extrait d'une minute 27 que je te fais jouer maintenant, sont rendus justement des organisations qui prônent pour l'environnement.
Quel est l'enjeu actuellement? Dites-moi ça. Qu'est-ce qui va mal à l'intérieur de nos organisations pour que le gouvernement décide de s'ingérer dans nos statuts, dans ce qui nous gouverne? Dites-moi, est-ce qu'on voit ça présentement? Est-ce qu'il fait la même chose avec la Fédération canadienne des entreprises indépendantes? Est-ce qu'il fait la même chose avec les chambres de commerce?
Madame Picard, je ne peux pas vous laisser aller, là. Oui? Fédération canadienne d'entreprises indépendantes, les PME, ils sont pas obligés, là. Tu sais, je veux dire, t'embarques pas, c'est volontaire. Vous avez un prélèvement à la source de sommes colossales, là. Des cotisations syndicales, ça peut être 1 000 $, 1 200 $. Je veux dire, vos membres, si on leur disait on coupe les cotisations de moitié, ils peut-être qu'ils seraient contents. Mais mettons votre voyage à Dubaï, êtes-vous sûr que tous les membres étaient d'accord avec ça?
Là, vous voulez qu'on parle à Dubaï? Ben, on en parle. On va à Dubaï. Là, on circule que la FQ a envoyé 10 personnes à Dubaï. C'est complètement faux. On était 3. J'étais là 24 heures, puis on se souvient de tout ce que ça a soulevé.
Oui, mais moi, je ne suis pas contre, mais de ceux que tous vos membres sont d'accord.
C'est des positions. Ben, monsieur Dumont, ça s'arrête où, ça? Hein? On fait ça comment? On gère ça comment? À partir du moment où il y a un débat démocratique et les gens ont dit oui, on ne laissera pas 2 500 lobbies du pétrole venir gérer notre environnement. Les groupes socio-économiques, on doit être là. On a des positions qui nous demandent d'aller là. Ben oui, je pense que oui. Hein? On fait partie des groupes progressistes qui défendent la voix de 600 000 travailleuses et travailleurs au Québec.
C'est-tu pas beau, ça, mon Gab, avec des cotisations obligatoires qui devraient servir à défendre les droits des travailleurs? La FTQ se paye des voyages à Dubaï pour combattre les méchantes pétrolières.
C'est incroyable. On a l'impression quand même qu'ils vont nous expliquer que bientôt, c'est eux les députés, puis ils ont été élus. Là. Non, mais il faut juste revenir sur terre, là. C'est quoi cette affaire-là? Non. C'est pas vrai que quand Magali Picard nous explique de pas voter Pierre Poilievre, par exemple, c'est dans son mandat. Il faut juste recadrer le mandat, revenir aux missions essentielles. Puis en réalité, le gouvernement du Québec, à travers le ministre du travail. Jean Boulet le dit très bien, je trouve ça intéressant, dans un des documents qu'on a vus dans l'espace public, indiquer que ben, peut-être qu'on va créer deux types de cotisations.
Ouais.
Parce qu'aujourd'hui, un travailleur syndiqué, ça envoie des centaines de piastres. Puis bien souvent, Mario Dumont l'a très bien dit, c'est plus que 1000 piastres pour un travailleur. Puis bien, on ne sait pas trop comment c'est géré. Hein. Il y a de l'opacité énormément en matière de finances pour les syndicats. Puis la personne, le travailleur qui envoie son argent, il ne sait pas le montant qui est utilisé pour cet activisme idéologique et politique des syndicats. Mais en plus de ça, je veux dire, il y a plein de monde qui sont pas d'accord avec les prises de position politiques de leur syndicat. Hier, j'en discutais, puis on avait un auditeur qui nous parlait que lui était syndiqué par la FTQ, puis il était fâché après Magali. Picard, parce qu'il disait, coudonc, là, moi, quand j'étais avec mes chums, plutôt mes collègues de travail, là, puis on est tous dans la salle, on est 90% conservateurs. Fait que quand elle vient nous expliquer qu'ils veulent prendre, par exemple, nos armes à feu au niveau fédéral ou qu'ils veulent absolument nous imposer certaines visions en matière d'écologie ou autre, on n'est pas d'accord. Donc, clairement, on a un peu la cotisation facultative.
C'est clair. Et d'ailleurs, écoute bien les réactions des auditeurs de Cube Radio et du 99.5 Montréal.
Pas de réactions.
C'est fou, là. Je veux dire, ça, c'est des réactions du public qui entrent sur la messagerie texte. Il y a Daniel qui nous dit je peux comprendre pourquoi on nous oblige à payer des cotisations ici au Québec, surtout que ça ne nous garantit rien d'un service efficace. Il y a Linda aussi qui dit, comme travailleur, nous sommes un paquet d'accord avec cette décision. Il y a tellement de gaspillage des syndicats. Yvan qui dit, je suis syndiqué depuis 1988, je suis d'accord avec la CAQ. Guy Maltais de Val-d'Or, si les syndicats ont tellement peur...
On vous écoute, vous êtes Cube Radio.
Ah.
C'est votre type, c'est votre auditoire.
Il grossit notre auditoire, puis il y a toutes sortes de monde.
Les gens qui ne sont pas d'accord peuvent venir dans les assemblées. Ceux qui paient des cotisations, non, mais c'est très honnête ce que je vous dis là. Ils sont invités à participer à la vie démocratique des syndicats. Oh,
Ouais, les gens qui sont pas d'accord peuvent venir dans les assemblées. Là, les textos qui étaient lus dans l'émission de Mario Dumont, Gab, c'était tous des travailleurs syndiqués. D'ailleurs, 418-971-1021, écrivez-nous si justement vous êtes d'accord. Envoyez Magali Picard à Dubaï pour combattre l'environnement avec vos cotisations syndicales. Et là, Magali Picard dit, ben non, mais ils peuvent venir dans les assemblées. Hey, on sait tous comment ça se passe dans les assemblées syndicales. Là. Il va y avoir 3-4 goons qui vont passer le message de la présidente, puis ceux qui se lèvent contre, là, ils vont passer un mauvais quart d'heure.
Non, mais la première chose, le niveau de mépris des auditeurs, quand même, c'est un parfum que j'apprécie pas le mépris, mais l'air que Magali Picard, lui, elle l'apprécie. Ça, c'est un peu particulier. La deuxième chose, je pense que c'est vraiment fondamental. Tout le monde doit comprendre une chose. Dans les dernières décennies, les syndicats ont créé une confusion mentale au Québec qui est absolument délirante, et c'est la chose suivante. Quand on parle du droit des travailleurs, quand on parle de ça, en fait, ce n'est pas lié au droit des syndicats. Autrement dit, ce qu'on vient faire avec le changement proposé par M. Boulet, c'est de dire on redonne de la liberté aux travailleurs. On donne le droit aux travailleurs de choisir s'ils cotisent pour des activités politiques des syndicats.
Exactement.
Et les syndicats nous disent c'est une attaque aux droits des travailleurs. Comment se fait-il? Dans quel monde on vit pour penser que donner plus de liberté aux travailleurs, c'est de les attaquer? Non, non, c'est parce que les syndicats perdent du financement. Ils savent qu'ils vont en perdre. Hein. C'est évident. Là, quand on entend les syndiqués plutôt dire « Écoutez, moi, ça me tente pas là, de commencer à payer pour des voyages à Dubaï », ben là, on commence à sentir la soupe chaude, là, parce que la réalité, c'est qu'ils vont en perdre du financement et c'est les syndicats qui vont être moins puissants, mais c'est parce que les travailleurs vont l'être davantage.
Oui, comme à Cube Radio 99.5 Montréal, par texto à présent, ben, nos auditeurs travailleurs syndiqués sont unanimes. Ils veulent que la CAQ ait de l'avant. On termine avec Mario Dumont qui rappelle à Magali Picard qu'un syndicat, c'est pas un parti politique.
Parce que si demain matin, il n'y a personne qui est là pour s'assurer que les gouvernements prennent soin du monde ordinaire, ben moi, je vous le dis, là, c'est la catastrophe.
Mais ce sont les élections, Mme Picard.
Venir chercher... Oui.
Les gouvernements, là, qui prennent soin du monde ordinaire, mais c'est pas les syndicats, c'est les élections. Il y a 5 partis au Québec. Chacun nous dit ce qu'on devrait faire. Okay. Vous aimez ça, dire aux gens comment voter, mais je veux dire, les électeurs, ils ont les programmes, et ils choisissent.
Monsieur Dumont, là, c'est important que je vous corrige. On ne dira jamais aux gens pour qui voter.
Ben voyons.
Ce qu'on dit aux gens, c'est les partis. Non, mais écoutez, on vient de sortir d'une élection canadienne là, où on a dit aux gens, il y a un parti, il y a un chef de parti qui travaille pas pour le monde ordinaire, travaille pas
dans
pour la classe moyenne.
Dans un système à deux partis, c'est pas... Ça ferait pas mal par être appuyé l'autre, là. Il y a un système à deux partis qui peuvent gouverner, vous dites qu'il y en a un qui est pas bon.
Ça, c'est sûr qu'on...
Excellent extrait. Puis c'est vrai ce que Mario Dumont dit. Les élections, les partis politiques sont là justement pour travailler pour la population. Bon, je sais que des fois, on a on a l'image ou on a l'impression ou on a la certitude même qu'ils ne travaillent pas pour nous. Mais c'est comme ça. Et présentement, au Québec, il y a Québec solidaire qui est un parti à gauche qui justement est là pour prendre soin des plus vulnérables de la société. Donc, sauf erreur, à moins que tu me dises le contraire, Gabriel, c'est pas le travail d'un syndicat.
Non seulement c'est pas le travail du syndicat, tu as totalement raison, mais en plus de ça, cette entrevue-là, non seulement elle est délicieuse à écouter, mais en plus de ça, elle démontre la nécessité devant cette inflation du pseudo-devoir des syndicats d'être partout dans la sphère politique, ce qui n'est pas du tout son rôle, de dire, bien, regardez, si vous êtes d'accord avec votre syndicat, envoyez de l'argent, sinon gardez-le dans votre poche, parce que c'est peut-être un restaurant de plus pendant l'année, c'est peut-être une coupe de resto de plus, une sortie en famille au zoo que vous allez pouvoir vous payer, mais pas un voyage à Dubaï de Magali Picard, puis certainement pas non plus de l'activisme politique et idéologique, des militantismes syndicaux. Je pense qu'on doit absolument redonner de la liberté aux travailleurs, parce que c'est redonner plus de pouvoir aux travailleurs, puis il faut en retirer aux syndicats. Je pense qu'on l'a vu dans les dernières années, les dérives. Il est temps là, d'un nouveau projet de loi puis d'une réforme là, en matière de travail au Québec.
Oui, ben, il y a deux dérives là, que je note. C'est le voyage à Dubaï et la FAE là, qui va jusqu'en Cour suprême pour débattre contre le projet de loi de la laïcité, là, alors que la majorité des Québécois sont pour là, la laïcité de l'État. Gab Giguère,
c'est quand même assez spécial.
Ah, oui, exactement. Comme toujours, c'est un plaisir de te parler. On se reparle la semaine prochaine. Il n'y a pas de doute, mon ami. D'ici là, je te souhaite un excellent week-end. Profite-en.
Bon week-end.
Salut Gab, merci. C'était Gabriel Giguère, analyste politique senior de l'Institut économique de Montréal. Après la pause, il est avec nous en studio. Mes amis, on ne l'a pas par Zoom. Je suis tellement content de le voir en personne. C'est Farnell Morissette. Farnell, quand j'ouvrais ton micro tout de suite là, avant la pause, Farnell,
bonjour.
Tu sais que tu es le chroniqueur préféré des auditeurs d'On Angers?
J'espère être le chroniqueur préféré de au moins mes parents qui écoutent des fois.
Eh hey, puis garde, puis on a des bons chroniqueurs, on a Antonin Iaccarini, on a Lambert Drainville, on a Rémi.
Ben c'est Villemeux. Ça, tu sais, je voudrais pas donner l'impression que je pense que je suis le meilleur parce que je les connais les autres puis ils sont bons aussi.
Ouais, mais quand tu passes, les gens sont contents. Et tu vas venir nous parler de quelque chose, moi, qui m'était passé un peu sous le radar, puis c'est ce que j'aime les vendredis quand on se parle. Tu veux nous parler du projet de loi C9? Fais-nous donc un petit résumé avant qu'on parte à la pause.
Oui, projet de loi C9 qui vient modifier beaucoup, ajouter beaucoup de restrictions aux propos qui vont être permis dans le code criminel sous la section sur le discours de haine. On en reparlera après.
Excellent. Et on va faire un petit aparté aussi sur le discours de Benjamin Netanyahou devant l'ONU. Les gens ont quitté la salle. Ouais. Donc, ça n'a pas bien été pour le président israélien. Vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1, c'est l'émission On en jase. On est de retour après la pause avec Farnell Morissette. Je te préviens certains, on jase. On en jase, le midi, sur Boulevard 102.1. Précisément, midi 39. Je vous le rappelle à la météo présentement, c'est 17 degrés. Le soleil qui se pointe le bout du nez un petit peu, ça sera 18 degrés au maximum, 60% de possibilité d'averse. Belle journée demain, 18 degrés ensoleillé, 22 degrés avec 60% de possibilité d'averse pour dimanche. Là, on vient d'ajouter un sujet, c'est Alice Affernel. Il veut revenir sur nos commentaires sur les syndicats. J'adore ça, démontrer les deux côtés de la médaille. Mais avant, Mathias, fais-nous deux, trois manchettes principales. Qu'est-ce qu'on doit retenir dans l'actualité?
Ouais, ben je commence avec le gouvernement Legault parce que c'est dossier chaud là, qui est sorti depuis maintenant quelques dizaines de minutes. Gouvernement Legault qui recule avec l'abandon justement de l'interdiction totale de vendre des véhicules neufs à essence en 2035. Donc, ça sera une cible de 90% de vente de véhicules électriques et hybrides rechargeables. Donc là, également annoncé, ça a été annoncé vendredi matin, justement. On met la faute de ça. Pourquoi on recule sur des cibles de véhicules neufs électriques en 2035? C'est pas parce que...
Attends. Donald Trump!
Donald Trump, ben oui, puis justement, le ministre Drainville, et je vais le citer, Trump a fait sauter essentiellement toutes les politiques visant à électrifier le marché de l'auto aux États-Unis. Mm-hmm. Puis je tiens à dire, c'est pas parce que la CAQ avait mis des cibles étaient inatteignables, non. C'est vraiment uniquement en raison de Donald Trump.
Je suis content parce que Trump a pas juste fait sauter la science, faut croire. Le Tylenol, le pilotiste, Farnell, t'as dit aimer ça.
Ah ben moi, en tant que consommateur de Tylenol, il va falloir que je me fasse tester, faut croire.
Également, gouvernement gouvernement Legault qui a, en fait, le Journal de Québec qui a mis d'informations sur comme quoi il y aura une forme de péage pour le futur troisième lien. Le futur troisième lien, on va continuer à le mettre en guillemets pour l'instant, Québec-Lévis. Donc, c'est une source gouvernementale qui ont affirmé au journal que c'était une certitude, qu'ils ne savaient pas encore de quel type, mais qu'il y allait avoir un péage sur le troisième lien. Du côté de Mario Asselin et d'Éric Kerr, du côté de la CAQ, on a dit que c'était pas encore confirmé puis qu'on allait en parler. La population de Québec allait pouvoir s'exprimer sur le sujet. Mais selon les dires du journal, c'est coulé dans le béton, il y aura un péage sur le troisième lien.
Écoutez bien, Jonathan Julien, ce matin, à son entrée au caucus de la CAQ à Gatineau.
C'est sûr qu'on l'envisage. J'ai eu deux bonnes rencontres déjà au ministère sur le lien interrive, le troisième lien avec les équipes. C'est sûr qu'actuellement, je travaille beaucoup plus fort sur le budget cible et le tracé qu'on va déposer incessamment. Mais dans les deux rencontres, j'ai parlé des notions de péage dynamique. Alors, intellectuellement, on est favorable à ça. Naturellement, c'est comme de venir dire quelle nappe je vais mettre sur ma table dans un restaurant que j'ai pas encore trouvé où j'allais le bâtir. Mais pour nous...
Je l'adore, cette expression-là. Quelle nappe je vais mettre sur ma table dans un restaurant que j'ai pas encore commencé à bâtir. Il y a deux choses dans cet extrait-là. Le premier, c'est que Jonathan Julien vient clairement dire qu'on envisage fortement le payage sur le troisième lien. La deuxième chose, c'est qu'il arrête pas de dire « Ouais, j'ai utilisé le payage, j'ai utilisé le tracé, j'ai pas encore décidé où je construisais mon restaurant. Coudon, est-ce que la CAQ va revenir en périphérie pour tenter d'aller chercher des électeurs là, de la région capitale National, Chaudière-Appalaches, je pense que c'est pas à écarter.
Et je termine avec le ministre Simon Jolin-Barrette qui a accusé le chef péquiste Paul Saint-Pierre-Plamondon de s'attaquer aux enfants du primaire. La raison, c'est que le Parti québécois irait plus loin que la Charte des valeurs québécoises du gouvernement de Pauline Marois. Après avoir consulté ses membres à propos du sujet justement de la laïcité dans les écoles, PSPP veut proscrire les symboles religieux ostensibles même chez les écoliers du primaire, donc chez les enfants du primaire. Ça a fait réagir Simon Jolin-Barrette. Ça a fait réagir Pablo Rodriguez également, qui a dit, et je cite, « Comme chef d'un parti politique, mais surtout comme père et comme être humain, je ne peux accepter ces propos de Paul Saint-Pierre Plamondon. Je refuse qu'on enseigne à nos enfants que la différence est un problème. »
En effet, donc ce sera dossier à suivre. C'est clair que le PQ va être attaqué de tous bords, tous côtés dans cette année là, préélectorale. C'est eux qui sont en avance dans les sondages depuis 2 ans. Farnell Morissette est avec nous en studio. Farnell, je te cède la parole. Tu voulais réagir sur notre discussion avec les syndicats auprès de leur mission. Moi, je crois que le syndicat n'a pas une mission politique, mais tu veux tenter de me convaincre du contraire?
Ben, je respecte le point de vue que le syndicat est supposé être essentiellement qu'un service de négociation puis de grief, mais je ne l'adopte pas. Puis la raison que je ne l'adopte pas, c'est parce que, ben, de un, je ne suis pas quelqu'un qui aime la concentration du pouvoir, puis si on accepte, comme le propose Mario Dumont, par exemple, que ben, le seul vecteur pour défendre les intérêts des gens, c'est les élections puis c'est la politique électorale, j'ai de la misère avec ça parce que ben, je ne pense pas que la démocratie, ça veut dire « présente-toi aux urnes une fois aux 4 ans, puis après ça, ferme ta gueule. »
Ouais, tu marques un point, et les médias sont un bon contre-pouvoir
aussi
également.
Puis je pense que les syndicats ont beaucoup de la même autorité et légitimité, si on regarde un peu d'un point de vue théorique, que les gouvernements. Les syndicats sont formés par des gens qui sont tous membres d'une classe ensemble. Ils sont élus, ils tirent leur autorité d'un mandat démocratique. Là, on peut se questionner sur les pratiques démocratiques réelles des syndicats, puis ça, je suis sensible à ça. Mais je pense que c'est ça le problème. Il ne faut pas s'attaquer au financement, il faut s'attaquer au processus électoral dans les syndicats. On pourrait faire une loi là-dessus, c'est ça le problème. Mais tu sais, j'essaie d'appliquer la même logique du gouvernement au gouvernement lui-même. Si moi, je décide qu'une campagne publicitaire contre la cigarette, ça ne rentre pas dans ce que je considère être le mandat du gouvernement, est-ce que je peux retirer une partie de mes impôts?
Non, en effet, c'est justement l'argumentaire de Magali Picard, et ça, elle n'a vraiment pas tort lorsqu'elle dit ça. Est-ce qu'on fait le débat présentement parce que les syndicats se sont plantés avec des gestes qu'ils n'auraient pas dû faire et que tous les centrales syndicales sont trop à gauche sur l'échiquier politique?
Ben, je pense que oui, les syndicats se sont ouverts à des attaques, puis là-dessus, je pense que c'est aux membres des syndicats de les rappeler à l'ordre. Je veux dire, si le gouvernement du Québec commence à faire des choses qui sont impopulaires, on n'accepterait aucunement que le gouvernement du Canada rentre puis dise « bon, ben, on va faire une loi pour ne pas vous permettre de faire telle ou telle chose ». Ça serait de l'ingérence totale dans un mandat démocratique.
Mais est-ce que le syndicat peut être comparé à un gouvernement?
le syndicat peut être comparé à un contre-pouvoir au gouvernement. Mmh. Et puis, je pense que c'est une des raisons pourquoi la CAQ s'y attaque. La CAQ n'est pas un parti qui est très favorable au contre-pouvoir en général. Si on regarde, par exemple, ce qu'ils ont fait avec les commissions scolaires étaient une forme de contre-pouvoir.
En effet, ils ont transformé en centre de service.
C'est ça. T'sais, les lois qu'ils ont adoptées pour encadrer aussi l'exercice par les villes de certaines de leurs compétences, on peut regarder partout, même aller jusqu'à dire, bon, ben c'est le gouvernement central, c'est le gouvernement de la CAQ qui va décider comment les enseignants vont se faire appeler par leurs élèves dans leur classe. C'est un gouvernement qui a comme philosophie une forte centralisation du pouvoir, mm-hmm. et puis on le voit aussi dans la façon qu'ils s'en prennent maintenant au syndicat.
Farnell, merci beaucoup de nous démontrer l'autre côté de la médaille. J'adore.
Ben, j'apprécie. Oui.
Yes. Benjamin Netanyahou, le président israélien, est allé d'un discours à l'ONU avant même qu'il prenne la parole. Je te dirais que la salle s'est vidée aux trois quarts des diplomates étrangers. Quel message on voulait envoyer au président israélien?
Je pense que la première chose qu'il faut reconnaître, c'est que les diplomates israéliens ont été absents de beaucoup des débats où les autres pays reconnaissaient l'existence de l'État de la Palestine, ouais. par exemple, où ils parlaient, entre autres, du rapport du comité indépendant de l'ONU qui fait état de que leur conclusion, c'est qu'il y a un génocide à Gaza perpétré par Israël présentement. Israël n'avait pas de députés, de députation en salle quand c'est arrivé. Alors que d'autres pays, là, j'ai pas la liste exacte, je sais pas si le Canada était parmi ceux, j'espère que non, a décidé de quitter la salle plutôt qu'écouter M. Netanyahou. Je pense que ça cadre avec le comportement d'Israël aussi. Mm-hmm. C'est une façon de protester, c'est une façon de manifester son désaccord avec un pays qui est, je veux dire, j'aime pas ça parce que ça dit qu'on t'écoute même plus. Je pense pas que c'est comme ça qu'on règle nos conflits, mais ça fait partie des règles de l'art des Nations Unies.
Donald Trump avait fait la leçon, là, justement, aux représentants de l'ONU en début de semaine en parlant de c'était horrible ce qui est arrivé le 7 octobre 2023 et qu'il fallait anéantir le Hamas, qu'il fallait que le Hamas libère les otages. Mais Farnell, corrige-moi si je me trompe, mais là, on s'en sort plus dans ce conflit-là si on continue juste à penser violence, violence, violence. C'est une population entière qui est en train de mourir. Là.
Je pense que là-dessus, la meilleure place à regarder, c'est la position des familles des otages présentement. Parce mm-hmm. qu'ils sont, ils sont actifs, ils essaient évidemment de rapatrier leurs êtres chers. Et eux, généralement, s'opposent à l'étendue de la riposte israélienne.
Tu as tellement raison.
Parce qu'ils voient, tu sais, chaque fois qu'on prend des mesures qui vont prolonger la guerre, on réduit la possibilité, la probabilité que les otages soient libérés. Les otages vont être libérés dans un accord au moins de cesser le feu, probablement un accord de paix. Et le comportement actuel, tant du Hamas aussi, là, je veux pas donner l'impression que c'est juste un côté ce problème-là, tant du Hamas que du gouvernement Netanyahou mm-hmm. n'est pas en train d'agir de façon à essayer de trouver une issue qui mène à un cessez-le-feu ou la paix.
Je termine là-dessus avec ce sujet-là. Est-ce que le fait qu'on quitte avant que le président israélien prenne la parole, ça va l'amener à être encore plus catégorique, encore plus violent dans ses attaques envers la bande de Gaza? Parce que ce que je chaîne de Benjamin Netanyahou, c'est que quand on vient de piquer à l'intérieur, la réplique est encore plus grosse.
J'ai pas l'impression que c'est une réaction émotive nécessairement, mais ça va certainement lui donner des munitions à l'interne à son narratif en Israël, comme de quoi ils sont entourés d'ennemis, ils ont très peu de réels alliés, ils doivent faire fi des sanctions qui viennent de la communauté internationale mm-hmm. parce que la communauté internationale ne les écoute pas, n'est pas de leur bord. C'est sûr que quand tu as des dizaines de diplomates qui quittent la salle avant même que tu commences à parler, c'est facile de retourner chez toi, dire « Regarde, ils nous écoutent même pas, c'est ça qu'il faut qu'on continue. »
Oui, c'est ça, exactement. Donc, ça sera à suivre, à souhaiter là, justement qu'on trouve un terrain d'entente et qu'on trouve la paix, là, parce que c'est une communauté en entier dans la bande de Gaza qui est en train de mourir de faim totalement. Ce que vous allez entendre, là? Hein? Du rap à boulevard?
C'est même pas de l'anglais, en passant.
Non, c'est ça. C'est le groupe irlandais. Farnell, c'est bien ça?
C'est le groupe irlandais Kneecap.
Kneecap. Et là, dis-moi donc, pourquoi on va parler de Kneecap à boulevard 101?
Ben, on va parler de Kneecap parce que ça va venir au projet de loi C9, mais on va y aller par un petit chemin le fun, parce que c'est le fun de voir du concret, de qu'est-ce que ça veut dire pour de vrai, ces choses-là. Le groupe Kneecap est un groupe irlandais de hip-hop, de rap, qui est très revendicateur sur plein de choses. T'sais, imaginez Loco-Locas si Loco-Locas était 10 fois plus politisé et, okay. et beaucoup plus extrême. C'est un groupe qui utilise de l'imagerie et des paroles choc intentionnellement. Mm-hmm. De façon à pousser des discussions sur plein de sujets. Ils ont été bannis du Canada. Ils étaient supposés avoir des spectacles à Toronto, à Vancouver la semaine passée. Ils ont pas eu le droit d'accès au Canada parce que pendant un concert qu'ils ont fait au Royaume-Uni, un des membres du groupe a brandi un drapeau du Hezbollah, qui est un groupe reconnu comme un groupe terroriste par la plupart des pays occidentaux, dont le Canada, qui est actif dans le sud du Liban et qui est un des acteurs violents contre Israël. À cause de ça, et le fait que c'est peut-être contraire aux lois au Royaume-Uni de montrer un drapeau d'un groupe terroriste de façon à inciter au recrutement de ce groupe-là ou inciter à la haine dans les lois contre le Royaume-Uni, ben, le Canada a décidé « Non, on ne veut pas vous avoir chez nous parce que nous croyons que le groupe NICAP fait de la promotion et partisan du Hezbollah et de Hamas. » Chose que le groupe nie catégoriquement. Okay. Et eux autres, ils disent « Non, nous ne sommes pas des partisans de ce groupe-là. On utilise l'image et les paroles de ces groupes-là à des fins artistiques, à des fins de faire avancer des discussions, des débats. Et les images qui ont été prises hors contexte. »
Ça ressemble un peu, et là, je suis en train de rechercher le nom. Peut-être que tu t'en souviens, Mathias, le chanteur là, country, là, rock américain, qui était venu là, de...
Ouais, c'était Lee, Maga, je pense, ça. Je me souviens pas de son nom, mais
en tout cas, bref, Mathias, si tu veux nous revenir avec ça, ça va être super gentil. Ça ressemble un peu à ça.
Ça ressemble un peu à
ça. À la différence que là, le Canada ferme vraiment les portes, alors que ce chanteur-là américain
a pu venir
au Canada. C'est juste que c'est aux organisations de décider, je produis ça en spectacle ou non.
C'est ça. Mais je pense que c'est important de voir cet exemple bien réel-là d'un groupe artistique qui est quand même extrêmement populaire en Irlande, à travers l'Europe, qui est très revendicateur, qui utilise son art de façon, je veux dire, qu'on peut être d'accord ou non, de façon à provoquer, qui se fait barrer l'accès au Canada parce qu'il y a présentement, en deuxième lecture à Ottawa maintenant, le projet de loi C-9 qui changerait, qui ajouterait des articles au code criminel pour faire une expansion de ces quoi qui serait illégal sous les lois contre le discours de haine.
OK.
Et une de ces choses-là, un des articles, c'est que ça deviendrait illégal de montrer ou d'afficher des symboles couramment associés à des groupes que le gouvernement a déclaré être des groupes terroristes, si c'est dans le but de faire soit du recrutement pour ces groupes-là ou pour faire avancer la haine. Et la haine est définie comme étant, puis ça, c'est la définition dans le projet de loi, je l'ai devant moi, un sentiment plus fort que le dédain ou l'aversion et comportant de la détestation ou du dénigrement. Ça, c'est la définition. Alors, si on présente un symbole, par exemple, d'un groupe terroriste ou un groupe déclaré comme un groupe terroriste par le gouvernement
fédéral. Ou même, par exemple, du Ku Klux Klan.
Par exemple, oui. Dans un but où... selon le gouvernement, on fait avancer un sentiment plus fort que le dédain ou l'aversion et qui comporte du dénigrement. Je veux dire, c'est quand même vaste, ça. Évidemment, il n'y a personne qui veut faire la promotion de ce genre de choses-là. On ne veut pas faire, je ne veux pas faire de l'apologie du discours de haine, mais quand on le définit de façon si large que ça, on vient, je crois, à deux risques qui vont devoir être vraiment pesés. Le premier, c'est qu'on pourrait s'imaginer des groupes artistiques qui sont dans le choc, qui sont dans la provocation pour des raisons artistiques qu'on a beau pas appuyer, mais qui sont quand même potentiellement légitimes.
Des groupes artistiques tout simplement anarchistes.
Exactement. Qui vont, par peur de représailles par la police, qui vont pourraient utiliser ces lois-là pour interpréter un discours de haine dans ce qui est plutôt être une intention choquante, ça peut mener à ces groupes-là de se taire. Et je pense que c'est pas à l'avantage d'une société de taire des artistes, même si, en fin de compte, il y aurait peut-être raison devant les tribunaux, parce qu'une révision par un juge dirait « Ouais, non, ton intention, c'était pas de fomenter la haine, mais parce qu'il y a la possibilité d'être interprété de cette façon-là, ils peuvent avoir de la misère avec la police. » Le deuxième risque, je pense, qui est encore plus gros, c'est que la meilleure façon de rendre une idée ou une idéologie attrayante, surtout auprès des jeunes, c'est de l'interdire. Alors, je veux dire, je peux imaginer, si on adopte une loi du genre, éventuellement, ça va arriver, un groupe va le faire, va se faire arrêter, va se faire poursuivre, être passable de 2 ans de prison. Ben, ce groupe-là vont être des héros auprès d'une certaine frange de la jeunesse.
Ils vont donner la victime parfaite.
Exactement.
Et par victime parfaite, le modèle parfait à justement copier.
Ben, c'est ça. Puis on parlait de M. Netanyahou qui, pour tourner chez lui, dire « Regarde, ne nous écoute pas », ben, les groupes terroristes, après ça, va être super facile pour eux d'aller voir des gens qui sont en début de radicalisation puis dire « Regardez comment ce pays-là, qui se dit un pays libre, qui se dit « avoir vos meilleurs intérêts », nous empêche même de nous présenter. Clairement, c'est parce que on a une idéologie qui est contraire à la leur et qu'ils ont tellement peur de nous qu'ils doivent déployer des moyens du genre.
Mathias, c'est le nom du...
Oui, bien justement, même sans le projet de loi, techniquement, on commence déjà à le voir, justement, des artistes. Et là, c'était Shane Furch qui avait, en juillet dernier, un Trumpiste affirmé, là, un gars d'extrême droite a vraiment affirmé MAGA puis contre l'avortement affirmé ouvertement, qui s'était fait refuser d'accès à un concert dans la ville de Québec. Quand tu vois ça, un projet de loi comme ça, là, c'est pas pareil, là, mais qu'on regarde aux États-Unis qu'il y a de plus en plus de discours qui se font taire, puis là, je tiens à dire, c'est pas du tout la même situation. On parle quand même de taire des groupes terroristes par rapport à ce qui se passe aux États-Unis.
Il faut le reconnaître, c'est pas du bon monde.
C'est pas au même niveau. Mais est-ce que tu as l'impression que c'est peut-être des premiers pas dangereux que les Canadiens font dans cette mouvance-là d'empêcher la parole à certaines personnes?
Moi, ma crainte, c'est vraiment que oui, on s'en va dans une direction qui va probablement avoir, à long terme, pas tout à fait l'effet voulu. T'sais, je veux être le plus clair possible. Je ne crois pas qu'on devrait, dans notre société, tolérer du discours haineux. Je pense pas qu'on devrait viser des groupes pour les dénigrer, pour encourager les gens à s'en prendre à eux, même idéologiquement. Je pense pas qu'on devrait faire ça. Mais c'est parce que je pense pas qu'on devrait tolérer ça, je pense pas qu'on devrait faire ça, que je pense pas qu'on devrait adopter des lois qui pourraient avoir comme effet, à long terme, de favoriser la virulence de ces idées-là parce qu'on les dresse en martyr, parce qu'en les interdisant, ça devient impossible suivre où est-ce que ces idées-là vont et ça les rend encore plus attrayants à des groupes vulnérables qui sont peut-être qui vont être plus faciles à marginaliser et ensuite radicaliser de cette façon-là.
Puis est-ce que justement ça pourrait presque devenir un outil politique de choisir certains groupes qu'on classifie comme groupes terroristes en disant ça va empêcher les autres de promouvoir ces groupes-là, ou là, il y a certaines limites quand même?
Bien, je pense que rendu là, c'est une question d'à quel point on a confiance dans la bonne foi du gouvernement. Et puis, je pense que la bonne foi se présume, mais il ne faut quand même pas être aveugle à ces possibilités-là. Imaginons qu'on arrive dans une situation où, par exemple, le gouvernement fédéral déclare que le FLQ est un groupe terroriste, le remet sur la liste, ben on pourrait se trouver dans une situation où des artistes québécois qui sont, encore une fois, dans la revendication choquante, dans l'intention d'utiliser des images de choquer pour faire provoquer des discussions, qui pourraient soit se trouver à dire « Bon, ben finalement, je pense qu'on va peut-être limiter notre expression » ou qui vont se mettre dans l'eau chaude. C'est un pouvoir discrétionnaire du gouvernement. Mm-hmm. Le gouvernement n'est pas obligé de consulter la population avant de déclarer qu'un groupe est terroriste. Et donc, ça pourrait dire que le gouvernement aurait la capacité de dire « Ben, à partir de maintenant, ce groupe-là qu'on n'aime pas, vous n'avez plus le droit d'utiliser ces symboles nulle part. » Je ne pense pas que c'est l'intention du gouvernement de faire ça. Mais qui sait, ça va être qui le gouvernement dans 10 ans? Ça va être quoi leurs intentions? Je ne sais pas non plus.
C'est drôle parce que je veux qu'on termine là-dessus justement. C'est la question qui me brûle les lèvres. On parle beaucoup de Donald Trump aux États-Unis. On n'est pas à l'abri d'avoir un personnage comme Donald Trump au Canada. Et une loi comme ça, Farnell, me corriges si je me trompe, ça ouvre la place à justement avoir un premier ministre qui serait très autoritaires.
C'est exactement ça ma crainte. Et puis, si on regarde, par exemple, ce que Donald Trump fait aux États-Unis, il ressort des lois qui datent de 1798, qui n'ont jamais été abrogées, qui donnent toutes sortes de pouvoirs discrétionnaires. Alors, c'est ça qu'il faut réaliser. Tous les pouvoirs qu'on donne de façon discrétionnaire au gouvernement aujourd'hui, à moins qu'on les donne d'une façon limitée dans le temps, c'est vraiment rare qu'on fait ça, ces lois-là restent et dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, un gouvernement mal intentionné, donc, qui est complètement imprévisible présentement, va avoir exactement ces mêmes pouvoirs-là. Et on a tous une responsabilité de s'assurer qu'on n'est pas en train de donner des outils, des armes à un hypothétique gouvernement autoritaire futur, même si on croit que dans le présent, on a confiance au gouvernement qu'il ne le ferait pas.
Vous l'entendez sur nos ondes dans le retour de Gravel et à chaque vendredi 12h30 dans l'émission On en jase, c'est l'excellent vulgarisateur d'actualité Farnell Morisset. Farnell, merci encore pour cette excellente chronique qui nous ouvre les horizons.
Ça me fait toujours plaisir, c'est parce qu'il est en fun en studio quand je peux aussi,
yes,
évidemment.
On continue à te suivre sur TikTok, je te souhaite un excellent week-end, profites-en bien et on se reparle la semaine prochaine.
Merci, salut.
Cool, salut Farnell, avant de passer à la pause, Mathias, circulation.
Oui, bien la circulation commence toujours plutôt le vendredi, oui. Puis le bordel, il est déjà bien pris un peu partout dans la région de Québec. Je commence par Capitale, direction ouest, à hauteur de Laurentienne, une voie sur trois de fermée. Présentement, ça montre un peu passé Bourg-Royal. C'est vraiment pare-choc. Gros ralentissement à prévoir dans le secteur. Capitale, direction est également, entre Robert Bourassa et Henri IV, c'est difficile. Robert Bourassa, direction sud, pour aller chercher la capitale. Très difficile également. On commence à avoir un ralentissement Henri IV direction sud pour aller chercher Pierre Laporte. Et le ralentissement 20 direction ouest commence à prendre forme également.
On a eu des réactions par texto, notamment le nom du projet de loi, s'il vous plaît. Il a été coupé par l'autre animateur. C'est le projet de loi C9, c'est bien ça, Farnell. Tu me fais signe de la tête, oui. Et j'adore quand vous réagissez différemment de nos pensées. C'est pour ça qu'on fait de l'opinion, c'est pour ça qu'on fait des chroniques. Un premier texto ici d'un auditeur ou auditrice. Alors, si tu veux ton nom, ça va me faire un énorme plaisir et merci d'être à l'écoute de Boulevard 102.1. Pour vrai, c'est la première fois que j'écris à Boulevard, mais ce serait la meilleure des choses avec un homme comme Donald Trump à la tête du Canada. Arrêtez d'écouter les médias contrôlés et haïr Donald Trump. Moi, pourquoi je veux pas d'un Donald Trump à la tête du Canada, c'est que je crois fortement à la démocratie. Je crois fortement à représenter l'ensemble des citoyens lorsqu'on est à la tête d'un pays. Présentement, Donald Trump fait vraiment de la catégorisation et gère les États-Unis pour sa gang à lui, la gang MAGA. Et c'est ce qui fait en sorte que je ne voudrais pas d'un Donald Trump à la tête du Canada. C'est aussi simple, c'est mon opinion. Merci de partager la tienne. Toi, Farnell, c'est quoi ton opinion là-dedans?
Ben moi, j'ajouterais qu'il faut vraiment faire attention parce qu'ils vont te répondre, ouais, mais il a été élu. La démocratie, ce n'est pas juste les élections. La démocratie, c'est l'ensemble de toutes les façons que tous les groupes d'une société peuvent peser dans la balance des décisions qui vont gérer la société. C'est ce que, juste dire, il a été élu, donc il peut tout faire, ça, ce n'est pas une démocratie, c'est une tyrannie.
Oui, exactement. Merci beaucoup, Farnell, pour ton opinion. Mathias, voulais-tu en ajouter?
Je pense que Farnell, il a fait le tour de... Non, mais c'est vrai.
On a le meilleur vulgarisateur.
Mais surtout dans une société de l'Occident comme nous, on a... Oui, c'est une démocratie, mais on est censé être dans une démocratie libérale. Une démocratie où la liberté d'expression est très importante, la liberté d'idéologie également. Puis malheureusement, même si un président est élu démocratiquement, ça veut pas dire que tout l'aspect libéral de la liberté d'expression, il respecte pour autant.
Exactement. Alors, merci beaucoup de continuer à nous écrire. Puis, il y en a plein qui écrivent, là, puis j'adore vos réactions. Et ça, je suis d'accord avec les auditeurs. Est-ce qu'on peut dire que la CAQ écoute la population depuis 7 ans? La réponse est non. Ils ont été élus pour faire un certain travail, puis ils l'ont pas fait. Fait que
excellent exemple de pourquoi c'est important d'avoir des contre-pouvoirs au gouvernement dans une société.
J'adore que tu me ramènes là, Farnell. Et que j'aime nos discussions. Tu sais comment je
j'aime
suis
ça aussi,
d'esprit.
J'aime ça aussi, parce que ouais, on peut parler, puis on jase, puis c'est le fun. Là.
C'est, t'as tellement raison. T'as raison, avec les contre-pouvoirs qui sont très importants. Merci, Farnell Morisset.
Ça fait plaisir.
Je te dirai jamais assez merci pour tes présences en studio avec moi. On fait une courte pause, et par la suite, c'est un excellent chroniqueur également qui va suivre. D'ailleurs, Farnell est l'idole de ce chroniqueur-là. T'avais-tu ça, Mathias?
Ah ouais?
Ah oui, ils se sont vus l'autre jour, ils ont pris quand je vais rouvrir le micro à Farnell.
Ah, moi j'adore tellement Lambert aussi, alors c'est de l'idolâtrie mutuelle.
En plein ça, on a deux vulgarisateurs d'actualité hors pair, back à back, à chaque vendredi. Ça. Midi et demi, Farnell Morisset, 13h Lambert Drainville. C'est Lambert Drainville qui s'en vient en studio. On va jaser notamment de Post-Canada.
Oh, ça, Lambert ça
brasse. Lambert me dit, prépare-toi à une pète de coche, Jeff.
Oh!
Contre qui en a-t-il? La direction de Post-Canada? La partie syndicale? Les deux? Il me l'a pas dit. Il me garde la surprise en ondes. Donc, on va parler de ce dossier de Post-Canada, grève générale illimitée déclenchée par les employés après la réforme Lightbound pour Post-Canada. Donc, on en discute après la pause avec Lambert Drainville. Vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1. C'est l'émission On en jase.
On en jase.
Il est précisément 13h10. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 102. Meilleure façon de nous joindre, 418-971-1021. Gardez ce bouton vraiment pas loin parce que on va vous poser des questions pendant la chronique de Lambert Drainville. Simplement vous dire que le retour de Gravel suit cette émission en jase et par la suite, on embarque en mode week-end à Boulevard. C'est le mode week-end musical, 18h à 20h, le garage à Dan. Par la suite, on a samedi matin de 7h à 10h, le Rock and Chill avec Audrey Pinchot. 10h à 15h, Dan Caron qui est là les samedis et Colosse le dimanche. Et à partir de 15h, c'est le rack à maths. Et dans le rack à maths de samedi, ben, je vais présenter mes goûts musicaux et ma demande spéciale. Donc, soyez là, mesdames et messieurs, à Boulevard 102.1 ce week-end. Programmation musicale hors pair avec les meilleures nouveautés. Avant de passer à Lambert Drainville, Mathias, des petits pépins dans la circulation.
Oui, bien juste vous rappeler que présentement, sur Capitale direction ouest, il y a un accident à l'hauteur de Laurentienne. C'est vraiment pare-choc à pare-choc jusqu'à avenue Bourg-Royal. Également, Capitale direction est, entre Henri IV jusqu'à Pierre-Bertrand, c'est très difficile. Le ralentissement... Henri IV, direction sud, pour prendre Pierre Laporte, commence à se créer.
On joint immédiatement Lambert Drainville, qui est avec nous à chaque mercredi et vendredi aux alentours de 13h. Lambert, comment vas-tu, mon chum?
Ça va bien, messieurs. Très content d'être avec vous autres.
Moi aussi, je suis très content que tu sois avec nous. Lambert, on va terminer ta chronique avec Post Canada, mais ouais. Je crois justement, pour bien terminer, tu voudrais poser une question à nos électeurs qui vont pouvoir répondre au 418-971-1021.
Hey, y a-tu encore des personnes à Québec, des personnes au Québec qui sont pas des livreurs de courrier, qui sont encore du bord des employés de Poste Canada, les gens qui nous écoutent, écrivez à la messagerie texte. Si on en trouve un, là, je vais faire des jumping jacks ici jusqu'à la fin du segment.
Ça avait déjà commencé à rentrer là-bas, je peux te dire que jusqu'à date, on est à zéro. Fait que bon. Peut-être qu'on va en trouver un, mais jusqu'à présent, on est à zéro. Alors, 418-971-1021, répondez à cette question. Êtes-vous du côté des employés de Poste Canada qui sont partis en grève générale illimitée après que Joël Lightbourn ait dit « Hey, écoutez bien, avec les déficits qu'on a, faut changer les choses. » Parlant de changer les choses, Lambert, un petit recul au niveau des voitures électriques. Ça ne sera plus 100% des voitures en 2035, mais 90%. Comment tu vois la situation?
Bip! 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 Hein, la CAQ qui recule, un son qu'on entend de plus en plus, messieurs, dames.
Ben voyons donc. La CAQ, as-tu reculé? Attends. Ah oui, hier, devant la Fédération québécoise des municipalités, le projet de loi sur le régime des forêts. Il y a une couple de... Ouais, troisième lien. Ouais, Jonathan Julien nous a dit qu'il étudiait encore le tracé aujourd'hui.
Bon. On va peut-être finir par avoir une pelletée de terre un jour.
Peut-être. Bon, parlons des voitures électriques.
Ben là, c'est ça. Ils vont pouvoir vendre des véhicules à essence en 2035. Donc, l'interdiction de ne pas vendre de véhicules à essence est levée. La cible est plus de 100% et de 90% maintenant. Là, moi, ce que je comprenais pas, puis j'ai parlé au cabinet du ministre, puis j'étais comme... Si t'es plus obligé, si c'est rendu qu'on peut vendre des véhicules à essence, puis que ça devient juste une cible, il n'y a plus d'interdiction... Comment est-ce qu'on va atteindre ce 90%-là?
En effet.
Ça va être une cible dans les airs, puis si on l'atteint, tant mieux. Si on l'atteint pas, tant pis. Là, ils me disent qu'il va y avoir des conséquences, là, tu sais, qu'ils vont devoir... chaque constructeur automobile va, dépendamment des ventes qu'ils font au niveau de leur véhicule, accumule des points. Là, quand tu vends un véhicule électrique, ça te donne un point. Quand tu vends un véhicule
électrique, c'est compliqué, cette affaire-là.
Oui, c'est ça. J'ai pas trop compris. Puis là, j'aurais demandé au final, tu sais, c'est quoi les conséquences si un concessionnaire automobile ou un producteur d'auto n'atteint pas le 90? Ils disent, ah, on sait pas encore, ça va être quoi les conséquences. On travaille là-dessus d'ici 2035.
Okay.
Ils ont le temps en masse, mais ces conséquences-là sont mieux d'être élevées parce que, ben honnêtement, avec tout ce qui se passe présentement, Trump, le fédéral qui recule, au Québec, on recule, les incitatifs, les programmes de subvention au fédéral, il est épuisé. Au Québec, a largement diminué et il y aura tout simplement plus de subventions d'ici à 2027. Fait qu'il reste à peu près 2 ans aux gens là, s'ils veulent bénéficier de quelques milliers de dollars en subvention si jamais...
Oui, puis tu sais que tu arrives avec un bon point. Moi, je pense qu'on est mieux de mettre des incitatifs que des conséquences.
Ben, dans tous les cas, on recule. Dans tous les cas, on ne sait pas trop comment, finalement, on va en arriver à ce 90%-là. Puis, tu sais, je regarde ce qui s'est passé dans les dernières années, dans les derniers mois. Au Canada, ça brûle à grandeur à chaque été. En Europe, ça brûle à grandeur à chaque été. Le ministre a dit que les deux mots à retenir de son annonce, c'est équilibré et responsable. Je veux bien que ce soit équilibré, puis je veux bien tenir du contexte, puis je comprends, puis je ne suis pas là pour me poser en donneur de leçons. Je comprends qu'il y a des gens qui en ont un peu marre de se faire dire qu'il faut toujours être plus écologique, être plus vert, être plus, faire plus attention, puis qu'ils veulent s'acheter leur VUS si ça leur tente. Puis sais-tu quoi? C'est bien correct. Tant mieux, tu sais, tout le monde a le droit de faire ses affaires. Je fais juste dire que, sans être moi-même un grand écologiste, on le sent, là. Tu sais, à Montréal, ici, il y a des inondations quasiment à chaque été. Vous, toi, tu m'as dit que vous avez eu des pluies diluviennes à Québec en juillet.
Ah oui, inondation 15 juillet, là, de mémoire. 100 mm de pluie en 40 minutes.
Bon, ben vois-tu, moi, quand j'étais jeune, je pensais pas les vivre. Tu sais, je me disais, changement climatique, c'est plus loin, là, tu sais, ça va être mes enfants qui vont vivre ça, tout ça. Là, on les vit concrètement chaque année. Fait que je fais juste dire, c'est correct de reculer sur les mesures environnementales, mais on pèle par en avant. Puis à un moment donné, il va falloir... Ces mesures-là vont devoir revenir à la mode. Présentement, c'est plus à la mode avec Trump, avec tout ce qui se passe. Ça va devoir revenir à la mode parce qu'ils s'en iront pas. Le réchauffement de la planète, il ne reculera pas. Puis ben, le jour où ce que le feu de forêt va être dans nos cours, on va peut-être se dire « Ah, ben tabarouette, on aurait peut-être dû pas reculer.
Mm-hmm. »
Et donc, voilà. Mon message pour tout le monde, c'est...
Non, mais j'aime énormément ta nuance. C'est la même nuance que j'avais fait mercredi matin dans l'émission Marceau le matin, quand Donald Trump s'est adressé à l'ONU et qu'il a dit « Changement climatique, ça n'existe pas. » Puis t'as dit, j'ai dit, t'sais, faut pas se mettre la tête dans le sable, ça existe, puis il faut prendre des mesures, justement, pour faire en sorte que ça nous frappe moins. Fait que j'aime beaucoup ta nuance là, par rapport à ça.
Voilà. Soyons-en conscients que... Ouais. Si on fait rien que pelleter par en avant, puis qu'au final, on va payer pour quand même, fait que le plus longtemps on attend, bien, probablement le plus rapidement qu'on va avoir les conséquences qu'on voit déjà s'agrandir et s'agrandir.
Lambert, tend l'oreille, s'il vous plaît. Ta chanson préférée, Leadership Québec.
Ben oui,
Québec.
Moi, ça, c'est ma thème.
Ben, je sais, c'est pour ça que je te l'ai mis, mon chum. Tu voulais nous glisser un mot sur les élections municipales, sondage, 27 % pour Bruno Marchand, 20 % pour Sam Hamad, 27 % d'indécis, 51 % qui veulent un changement à tête de la ville, mais ouf, est-ce que les opposants font un bon travail? Bref, comment t'analyses ça?
J'analyse ça comme... C'est une course qui est encore à gagner. Je pense que ça va jouer jusqu'à la fin. Visiblement, Bruno Marchand, pour l'instant, est encore premier, autant chez les hommes, chez les femmes, les jeunes, les plus vieux. Il est premier dans pas mal toutes les catégories. Il est premier dans la Cité-Limoilou, à Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, Charlebourg. Sam Hamad est premier seulement dans une partie de la ville, c'est dans Beauport. Wow. Et tu as une égalité statistique dans les Rivières et Haute-Saint-Charles. Ouais.
Il y a des bons candidats, là, Sam Hamad, de terrain dans Beauport, là, notamment Steven Sumelançon, qui est élu depuis longtemps, et Justine Savard là, dans le district de Sainte-Thérèse-et-Lisieux, là, une avocate de formation là, qui est très près des citoyens.
Oui, c'est ça. Puis comme tu as dit, quand tu tiens compte de la satisfaction du bilan de Marchand, 42 % sont satisfaits, 50 % sont insatisfaits. C'est bien mieux, malgré que ce ne soit pas, disons, le paroxysme, c'est quand même bien mieux que ce que Valérie Plante obtenait là,
clairement.
À Montréal. Et donc, à cause du haut pourcentage d'indécis et du haut pourcentage d'insatisfaits, c'est sûr que c'est une course qui demeure à terminer. Ça va jouer jusqu'à la fin, selon moi. Mais tu sais, moi, je...
Mais là, faut que les partis d'opposition se réveillent, là, notamment Sam Hamad, là, parce que là, il y a le terrain à gagner, mais présentement, il ne fait rien pour le gagner.
Bien là, c'est parce que moi, je suis pas la campagne d'aussi près que je le ferais si j'habitais à Québec, mais tu sais, bien honnêtement, ce qui se rend jusqu'à mes oreilles à Montréal, c'est jamais positif. Puis là, mercredi soir, Leadership Québec ont eu un caucus où les différents candidats... voulait comme un peu avoir se faire rassurer en quelque sorte par M. Hamad. Là. Laisse-moi te dire qu'en début de campagne, quand tu as besoin de rencontrer tes députés pour les rassurer, c'est jamais bon signe. Fait qu'il va falloir qu'il trouve une façon de changer le narratif autour de son parti, qu'il réussisse à faire parler de lui d'une autre façon que dans cette espèce de spectre constamment négatif-là. Et la balle est dans son camp, mais il faut qu'il change un peu cet esprit-là.
Oui, vraiment. Et là, ben, cette semaine, Sam Hamad a décidé de ne pas faire de sortie publique justement pour tenter de passer à travers ce momentum-là négatif. On a fait énormément de terrain, par contre, parce que j'ai parlé avec beaucoup de candidats là, de Leadership Québec cette semaine. On fait beaucoup de terrain. On va à la rencontre des citoyens, justement, pour tenter de recadrer le message. Mais ça va être vraiment la semaine prochaine, la semaine déterminante pour Sam Ahmad. Lambert, on a lancé une question à nos auditeurs. Bien, c'est zéro. C'est zéro. Il n'y en a pas un qui croit aux employés de Poste Canada. Il n'y en a pas un qui est en accord avec eux. Il n'y en a même pas un qui dit « Mon pauvre livreur, il pourra plus, il va aller dans des boîtes postales. » Personne, mais personne n'est en accord avec cette nouvelle grève.
Je comprends pas. Je comprends pas. C'est pousser le monde à bout. Il y avait eu 32 jours de grève en novembre 2025, juste avant les fêtes.
Ouais.
55 000 travailleurs, ça avait occasionné des retards d'un cadeau de Noël, des centaines de milliers de passeports qui avaient été en retard, des pertes de revenus d'au-delà d'un milliard pour les PME de partout au pays. Ces conséquences-là, on va les revoir encore une fois cette fois-ci. Qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là? Bien, plusieurs compagnies qui se rendaient bien compte qu'ils ne pouvaient plus se fier sur Poste Canada s'étaient tournées vers d'autres compagnies comme UPS, FedEx, Canpar. Bien, devine qu'est-ce qui va arriver cette fois-ci dans une perspective où c'est une société d'État qui est extrêmement déficitaire. Ça ne les aidera certainement pas là, à retrouver le chemin de la viabilité. Puis rendu là, j'ai l'impression. Puis en plus, bon, il y a eu la réforme Lightbound qui a été annoncée. La direction de Poste Canada était sortie en faveur de ce que Lightbound proposait. Il a demandé à Poste Canada, au fond, de se moderniser. Il a suivi les recommandations qui avaient été faites par la commission d'enquête sur les relations de travail à Poste Canada. Et bon, écoute, la direction, elle, était sortie pour dire justement, on salue les changements, effectivement, il faut se moderniser, il faut progresser. Puis qu'est-ce qui est arrivé quelques heures plus tard? Bien, le syndicat de son bord, il dit non, les employés, on retourne en grève. Il dit que les changements annoncés par le gouvernement sont des mesures draconiennes qui nuiront aux travailleurs et à la population. Ben, vas-tu me te dire, moi, que c'est qui nuit aux travailleurs, mais surtout à la population, mon gars? C'est une institution vieille de 150 ans qui a plus de 5 milliards de pertes depuis 2018, 1,5 milliard de pertes qu'on attend d'ici la fin de 2025, une perte à chaque jour de 10 millions de dollars. En plus de ça, tu as le gouvernement qui leur lance des bouées de sauvetage avec des subventions pour les aider à garder la tête en dehors de l'eau de plus qu'un milliard de dollars en janvier. Puis le ministre a même ouvert la porte mardi à une nouvelle aide financière du gouvernement. Fait que, tu sais, ça là, c'est notre argent. Là. C'est l'argent
du monde. Exactement. Et corrige-moi si je me trompe, Lambert, mais ça prend des mesures draconiennes quand on est dans le trou de même.
Bien, ça prend des mesures draconiennes. Écoute, faut-tu vivre dans la taverne d'Ali Baba pour penser que leur modèle d'affaires fait encore du sens? Il y avait 62 % du marché avant la pandémie en termes de livraison de colis. Après la pandémie, avec l'avènement justement des nouvelles compagnies qui leur donnent de la concurrence, il y avait en 2023, ils étaient tombés de 62 à 29 % de la livraison de colis. Sais-tu pourquoi? Bien, parce qu'eux autres, ils chargent 60 à 65 $ de l'heure pour leur service. Et les autres compagnies, 40 piastres, même que pour Intelcom, avec laquelle Amazon fait affaire, c'est 25 $ de l'heure. Puis à part de ça, ils ne travaillent pas la fin de semaine. Ils veulent pas travailler la fin de semaine.
Non, c'est complètement déconnecté de la réalité. Puis je termine là-dessus, Lambert. Hier, Joël Lightbound n'a pas annoncé une privatisation, mais justement une restructuration majeure. Mais là, si ces syndiqués-là continuent à faire la grève de même, là, on va privatiser ça au plus sacré. Là, on va arrêter de mettre de l'argent là-dedans.
Bien, tu sais, à un moment donné, je me mets dans la peau d'un livreur de courrier. Là. Tes options sont pas compliquées. Là. Fais-tu partie des quelques qui vont garder leur job, qui vont s'ajuster, qui vont arrêter avec la rigidité syndicale? Écoute, Poste Canada peut même pas, à cause des conventions collectives, embaucher des employés à temps partiel. Ils ne peuvent pas. À cause d'inconvention, ça dit qu'ils n'ont pas le droit. Ils ne peuvent pas travailler les fins de semaine. À un moment donné, là, on est en 2025. Fait que toi, tu as deux options si tu es un livreur. Soit tu fais partie des quelques qui vont s'adapter et qui vont garder leur job, ou bien vous allez toutes la perdre, vos jobs. Vous allez toutes les perdre, vos jobs, parce qu'on va privatiser à patente. Puis les autres compagnies qui ont déjà le vent dans les voiles, qui sont déjà en train de manger leur partie de la tarte, vont juste prendre l'entièreté de la tarte. Puis, regarde, on va passer à un autre appel. À un moment donné, il faut arrêter de prendre le monde pour des caves.
Exactement. Du syndicalisme aveugle à son meilleur. Lambert Drainville, merci beaucoup pour cette autre excellente chronique. On se parle mercredi prochain. Passe un beau week-end, mon ami. Et c'est toujours un plaisir de te parler en ondes.
Yes, sir, les boys. Bonne fin de semaine.
Salut, bonne fin de semaine. Mathias, il y avait de la circulation. Je crois qu'il y a un accident sur de la capitale.
Oui, présentement, capitale direction ouest, accident vis-à-vis Laurentienne. Là, ça remonte jusqu'à rue Seigneurial. Présentement, pare-choc à pare-choc, c'est vraiment, vraiment lent. Côté capitale direction est, c'est à partir de Pierre-Bertrand jusqu'à Henri IV. Circulation très difficile également. Henri IV direction sud, direction Pierre-Laporte, léger ralentissement. Rien de trop pire. Capitale direction ouest dans le secteur de Taniata. Il y a un ralentissement à prévoir également. Pour ce qui est du dossier Poste Canada,
oui.
J'aimerais quand même apporter une nuance de mon côté.
Vas-y.
On a beaucoup critiqué les employés puis tout. Moi, pour moi, le réel problème, les employés souvent, malheureusement, écoutent ce que leur syndicat a à dire. Écoute la position que leur syndicat va dire de suivre. Je sais que vous me direz, ils peuvent se lever, ils peuvent voter. Je sais, mais souvent, dans les positions syndicales en général, les employés vont suivre le syndicat. Pour moi, le réel problème dans l'histoire, c'est que présentement, le syndicat de Poste Canada ne s'élève pas en tant que leader qu'il devrait prendre. Il ne s'élève pas en disant « Hey, on sait que la compagnie est en situation difficile. On comprend la situation. C'est tout à fait logique ce qui se passe. Il n'y a rien d'anormal. » Au lieu de dire « OK, on comprend, on va prendre un pied de recul puis on va avoir une introspection, une réflexion, lance la grève », c'est complètement ridicule de la part du syndicat. Le discours de la part du syndicat devrait s'élever, au contraire, dans ces situations-là.
Tu as entièrement raison. Et c'est d'ailleurs pourquoi, justement, on a parlé avec Marc Ranger. C'est disponible sur le blvd.fm. On a parlé avec Marc Ranger, stratège au niveau syndical dans Marceau le matin. C'est exactement ce qu'il nous disait ce matin. Il nous disait, écoutez, le leadership est très mal assumé du côté syndical.
Juste petite mise à jour là, sur la route parce que ça vient de rentrer l'accident. Direction ouest, c'est terminé. Le ralentissement est toujours présent jusqu'à Seigneurial, mais ça va normalement se libérer petit à petit.
Très bonne nouvelle. On va accueillir Irénée Rutema très prochainement en studio. Irénée est un chroniqueur politique et conférencier. On va parler avec lui de la campagne électorale municipale. Irénée, ben c'est simple, c'est l'ami de tout le monde. Fait qu'il jase avec tout le monde, il parle avec tous les partis politiques, alors il y a des très bonnes informations à nous partager. Mais avant de passer à la pause et de parler avec Irénée, je vous fais entendre Stéphane Lachance qui était dans le Point de Max, émission entre 10h et midi à ne pas manquer sur les ondes de Boulevard 102.1 du lundi au vendredi. Et il explique pourquoi il n'y a pas d'alliance entre Espèce citoyen et Leadership Québec.
Sortir marchand pour sortir marchand, c'est une chose, mais c'est pas... je veux dire, on a des idées qui sont, oui, sur certains points, on se rejoint, je le nierai pas. Mais il y a des choses où on n'est pas du tout au même endroit, de la façon de procéder aussi. Puis c'est, malheureusement, cette démarche-là, c'est il y a un an que ça aurait dû se produire. Nous, on l'a fait, cette démarche-là. Nous, on est là depuis le 4 juillet 2023. On a eu des rencontres à 4 reprises avec M. Hamad. Par la suite, on a rencontré aussi certains de ses organisateurs. On leur a parlé de tout ce qui se passe actuellement. On leur a tout expliqué ça. Et malheureusement, on n'a pas été capable parce que, pour différentes raisons, là, qui seraient longues à expliquer, mais on n'a pas été capable de conclure. C'est sûr que d'avoir le maire sortant contre un seul candidat, ça aurait été le monde idéal. Ouais. Mais ça ne marche pas comme ça dans la vie, malheureusement. On a plusieurs points où on diffère beaucoup, entre autres sur le projet de mobilité. Je veux dire, M. Hamad, ça arrive avec un projet de SRB+, à 4,2 milliards.
Alors voilà, c'est une des raisons, le projet de mobilité qui amène Stéphane Lachance à faire cavalier seul avec Respect citoyen. Et vous savez quoi, dans la démocratie, bien moi je salue les gens qui ont l'audace comme Stéphane Lachance de partir son propre parti politique, de mettre sa face sur des pancartes électorales et d'aller justement tenter d'obtenir des votes et rentrer à l'hôtel de ville.
Ah, 100%, c'est toujours un beau défi. Puis en soi, Stéphane Lachance a quand même raison. Là. Même si les deux sont contre-marchands, c'est vrai que quand tu écoutes le discours des deux, ça diffère sur plusieurs points. Oui. C'est pas les mêmes lignes de parti du tout. C'est correct que Stéphane Lachance fasse campagne de son côté. Maintenant, c'est à M. Hamad, s'il veut rentrer à la mairie, d'élever son discours, d'avoir plus de mordants et de cette façon-là, aller chercher des potentiel électeur à respect citoyen.
Exactement. Ça va beaucoup se jouer la semaine prochaine parce que Sam Ahmad va faire un retour en force dans l'actualité avec des annonces et ce sera là, selon moi, que ça va passer ou casser. Je le répète, il y a encore 27 % de personnes indécises, 51 % des gens de Québec qui veulent un changement à la mairie. Donc, tout n'est pas terminé pour les opposants. Bruno Marchand, mais le temps presse. Vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1, c'est l'émission On en jase. Comme je vous l'ai dit, après la pause, on parle avec Irénée Rutema, un nouveau chroniqueur politique et conférencier, ici même sur les ondes de Boulevard 102. On va s'intéresser à la campagne municipale. Précisément 13h38, vous êtes à l'antenne de Boulevard 102. C'est l'émission On en jase, le retour de Gravel qui suit avec Denis, Véro et Audrey. On aura un des frères Leclerc, un de nos propriétaires, qui va venir parler de sa présence, justement, aux audiences du CRTC aujourd'hui, donc à ne pas manquer aux alentours de 15h30. À la météo, 18 degrés aujourd'hui. Peut-être des averses cet après-midi, 18 degrés ensoleillés demain et dimanche, c'est 22 degrés, 60 % de possibilité d'averses. Mathias, à la circulation?
C'était gros bordel tantôt sur Capitale Direction Ouest. Ça s'est réglé, là, léger ralentissement encore au niveau de Laurentienne, mais c'est vraiment pas si pire. Côté Capitale Est, par contre, le ralentissement est toujours présent. Ça part de Robert Bourassa jusqu'à Henri IV. Quand même un bon ralentissement à prévoir dans ce secteur-là. Henri IV, direction sud, pour prendre Pierre-Laporte, un peu de ralentissement, mais c'est vraiment pas si pire pour le moment. Si vous avez des informations, 418-971-1021.
Merci beaucoup, Mathias. J'ai eu le bonheur de rencontrer cet homme lors de point de presse à l'Hôtel de Ville. Son nom est Irénée Rutema. Il est chroniqueur politique et conférencier. Irénée, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1.
Salut, salut. Content de te voir sur
C'est le fun,
en studio,
hein?
Sur le terrain.
Ouais.
Et Mathias aussi, content de te rencontrer.
Ah, moi aussi.
Mathias, ça fait jeune, hein, s'il vous plaît. Hein.
21 ans, okay. À la radio comme remplaçant, fait un travail exceptionnel, couverture terrain parfaite et étudiant en politique. Donc, c'est une extraordinaire jeunesse pour la ville de Québec.
On va se croiser souvent. Là.
Probablement, on l'espère. C'est clair. On l'espère.
Irénée, on en parle beaucoup de cette campagne électorale, mais on est seulement à la première semaine officielle de campagne. Tu retiens quoi des sondages qui sont parus aujourd'hui, là, justement, là, dans les médias de Québécois?
Alors, ce que je retiens, c'est que Marchand, ça va bien pour lui.
Oui.
Je pense qu'il est en amour, donc ça va super bien pour lui. Et il est plus joyeux et je pense que, vu le sondage, et qu'il est en amour et qu'il va pouvoir aller passer beaucoup de temps à Montréal.
Ouais, ben mais t'as raison que Bruno Marchand a complètement changé son approche depuis la rentrée, je dirais de l'hiver dernier, où il est plus joyeux dans ses conférences,
moins en colère. Donc, je suis allé au lancement de sa campagne au Musée de la Civilisation. Écoutez, je ne l'avais jamais vu aussi heureux, tellement qu'en parlant de notre deuxième candidat,
M. Ahmad,
il y a une rumeur qui circule, mais à la blague, que M. Marchand l'aurait engagé pour avoir de la compétition. Mais avec ce qui se passe ce matin, on dirait que là, M. Ahmad est en congé syndical. Il a eu un break avec le départ de M. David de Weiser.
Est-ce que c'est une des premières fois que tu vois justement un chef de parti comme Sam Ahmad de Leadership Québec qui n'a pas fait vraiment de sortie publique dans la première semaine de campagne? C'est comme si on avait voulu laisser passer ce vent-là qui nous frappait en pleine face.
Ah non, ils l'ont caché. Là. Ils l'ont caché parce que c'est le candidat, jusqu'à maintenant, c'est le candidat malhabile. Le candidat gaffe. Alors, donc, il a tellement commis de gaffe que son équipe a décidé de faire un retrait stratégique, ce qui est bien pour eux, parce que sinon, on l'a vu dans plusieurs événements, là, sa campagne prenait de l'eau. Là.
Ouais.
Alors, donc, ils ont bien fait de le garder au calme pour qu'il puisse se restructurer. Et j'ai hâte de voir la semaine prochaine. Là, il a plusieurs annonces. Et en même temps, ses équipes disent que donc il y a une rencontre mercredi passé. Et on sent la nervosité, on sent le stress. Moi, j'étais à l'annonce de M. Wu, là, quand il a annoncé. Ils sont sur les nerfs, là. On les sent stressés. Ça n'allait pas bien. Alors, on va voir si M. Ahmad va pouvoir prendre la main. J'espère qu'il va pouvoir le faire Parce que sinon, sa campagne... Donc, moi, je vous dis que sa campagne, aujourd'hui, est à l'urgence. Là.
Oui, hein, vraiment.
Il est à l'urgence. S'il ne fait pas attention, mm-hmm. il va aller aux soins intensifs là, la semaine prochaine. Et après des soins intensifs, mais c'est les soins palliatifs.
Ben, c'est ça. Et puis là, exactement. La future candidature dans Saint-Roch, ça passe ou ça casse dans le sens que ça va jouer beaucoup sur sa crédibilité. Je me trompe-tu en pensant ça?
Non, écoute, M. Hamad n'a plus de crédibilité dans Saint-Roch. Mm-hmm. Et quand il nous a présenté M. Roux la semaine passée, il disait c'est le champion de Saint-Roch.
Ouais,
et il a eu de la difficulté à recruter dans Saint-Roch en suivant son point de presse la semaine passée. Qui était jeudi, pardonnez-moi, il disait « Ah, on s'est parlé hier, nous nous sommes parlé hier, donc il ne se connaissait pas encore.
Ouais. »
Alors, mais Saint-Roch, là, il y a Marjorie Champagne qui fait mm-hmm. campagne, qui fait une très, très bonne campagne, et j'ai l'impression que ça ne sera pas si facile que ça pour notre amie Eleni.
Oui, Eleni Lepage, oui. Marjorie Campagne, elle est pour Respect Citoyen, je pense.
Non, elle est avec Jackie Smith.
Jackie Smith, Transition ça, ouais. Québec. Ouais, OK, ouais, parfait,
Transition
merci.
Transition Québec, là, oui.
Merci beaucoup. Chef d'opposition officielle, de l'opposition officielle à la mairie de Québec, Claude Villeneuve, qui est maintenant oui. candidat à la mairie. Bon, ça ne va pas bien pour lui dans les sondages, seulement 8%. Mais Québec d'abord, je trouve, fait quand même une bonne campagne. On fait annonce par-dessus annonce, on tente d'aller chercher oui. de la visibilité, on fait une bonne campagne sur les médias sociaux. Oui. Tu sais, Claude Villeneuve essaye très fort, là.
Non. Écoutez, moi, je le trouve agressif, même.
Oui, hein?
Mordant. Lui qui avait une réputation d'être très, très, très gentil. Mm-hmm. Donc, comme on le dit dans le hockey, là, il va dans les coins. On l'a vu quand il a insulté. Pas insulté, mais...
Sa mamade avec,
ouais. avec les propos mafieux. Et donc, moi, cela dit, j'ai beaucoup d'estime pour M. Villeneuve parce qu'il a hérité de l'ancien parti de M. Labombe, de l'équipe Marie-Josée Savard. Il a perdu beaucoup de candidates. Il y en a plusieurs
vraiment?
Qui sont allés avec M. Hamad. Et il tient le fort. Pour ça, je le trouve mm-hmm. Résilient.
Vraiment.
Ouais. Et il joue.
T'as entièrement raison.
Oui, il est mm-hmm. bon. Là, j'ai hâte de voir quand on aura les débats.
C'est ça. C'est une bonne première semaine de campagne électorale pour lui. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est juste qu'au niveau de notoriété, là, ça ne colle pas.
Les gens ne le connaissent pas. Donc, il n'est pas très connu, sauf pour les initiés.
Mm-hmm.
Et j'aime beaucoup Claude, mais son défaut, c'est qu'il n'est pas très politicien. On l'a vu dans les points de presse ensemble.
Ah, t'as tellement raison.
Quand tu lui poses une question, il te fait un cours de Sciences Po
oui.
101. Alors qu'il devrait entrer dans...
Ben, Claude Villeneuve est resté chroniqueur politique
exactement,
au lieu de devenir justement candidat potentiel à la mairie de Québec.
Exactement. Donc, mais aujourd'hui, je le trouve quand même assez batailleur. De toute façon, il n'a plus rien à perdre.
Non, c'est ça, exactement. Puis il peut juste essayer de sauver ce parti-là là, qui, malheureusement, quand tu parlais de soins palliatifs, Québec d'abord cogne à la porte du soin palliatif.
Je pense que je vais même envoyer des fleurs à la tombe. Là.
C'est ça.
je vais commander cet après-midi.
Exactement. Irénée, dis-moi donc, on parle là, de soins palliatifs et de mort, mais il y a un parti qui est né cette année.
Oui.
C'est Respect Citoyen.
Oui.
Et moi, les échos que j'ai, c'est qu'on fait une très bonne campagne terrain.
Je suis d'accord avec toi. Moi, je les trouve optimistes et
oui.
positifs surtout parce que.
T'as raison.
Avant, M. Lachance était vraiment anti-tramway. On sentait qu'il était en colère.
Oui, même son passage avec les conservateurs.
Exactement.
On était anti-mesures sanitaires. T'sais, on dirait que M. Lachance était toujours anti-anti. Puis là, j'ai senti un changement de discours.
Ah non, je trouve vraiment optimiste et je le dis. Là. Quand je l'appelle, il prend tout le temps le téléphone.
Oui, il est disponible, ça n'a pas de sens.
Il est disponible, tu peux me texter, tu peux m'appeler en même temps. Est-ce que j'ai eu donc lui, je peux dire que j'ai jasé avec lui hier. Et il me disait que lui, il ne veut pas commenter les gaffes de M. Hamad. Il fait du terrain et ce qui est plate pour tous les gens qui n'aiment pas Marchand, c'est que Sam Hamad et M. Lachance auraient dû se marier.
Clairement.
Ouais, ils se sont cruisés. Finalement, M. Hamad a refusé de continuer l'amour.
Oui, c'est ça.
Ils naissaient entre eux. en refusant de rencontrer les partisans, les militants de Respect Citoyen. Mm-hmm. Et ce qui est plate, c'est que là, ils vont... Aujourd'hui, si on avait une campagne, si on avait une élection, pardon, M. Marchand va gagner, alors que l'opposition est divisée.
Ouais. Oui, parce qu'à gagner, on le voit là, avec les intentions de vote. Bon, si on fait répartition des indécis, mettons que Bruno Marchand finit à 31-32%, mm-hmm. quand même un pourcentage faible en crime pour gagner la mairie de Québec. Là.
Mais on l'a vu, sa victoire était...
Oui, oui, était très serrée. Très serrée, donc il n'y a pas de doute.
Il va marcher dans les mêmes mm-hmm. espadrilles.
Oui, 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 exactement.
Donc, ça sera serré, mais vous le disiez tantôt, là, je vous écoutais, son défi aujourd'hui, c'est les banlieues. Il a passé donc toute la semaine en banlieue.
Oui,
là.
Bruno Marchand, en effet.
Je ne sais pas s'il est allé à vélo là, ou en autobus.
L'histoire ne le dit pas.
Oui, oui.
On va lui poser la question.
Pardonnez-moi, M. Marchand.
C'est ça.
Ouais, alors, bon. Donc, c'est aujourd'hui, il gagne la mairie, mm-hmm. mais... Il a besoin des banlieues pour être majoritaire, ouais. sinon il va devoir aller creuser l'opposition, faire du maraudage, ce qui peut être plus difficile pour passer ces projets.
Oui, pour passer ces projets qui ne sont pas dans la même visée justement qu'un Stéphane Lachance ou le parti Leadership Québec.
Exactement, même le parti de M. Hamad.
Là. Exactement. Il nous reste un petit 2 minutes en terminant. Transition Québec avec Jackie Smith, Anne Guérette avec son Parti du Monde. Moi, Anne Guérette, j'aime mieux pas trop parler parce que c'est solitaire.
C'est exactement, c'est Parti du Monde, mais avec ouais. une seule personne. Donc, exactement. Elle est solitaire. Là.
C'est ça. Jackie Smith, par contre, un peu comme Québec d'abord, fait beaucoup d'annonces, oui. Fait beaucoup de conférences de presse, oui. tente justement de se faire voir. Oui. Pas toujours facile pour elle, très à gauche sur l'échiquier politique, oui. mais je considère que c'est un bon début de campagne pour elle.
Non, c'était un bon début de campagne et on la voit souvent, on l'a vu souvent ouais. dans les points de presse, mais elle est mordante aussi, elle est agressive. Vous vous souvenez qu'elle avait qualifié M. Hamad de Nicodère de Québec.
Oui.
Là, on était là, on dit « Hey! »
Non, c'est vrai. C'est dommage qu'elle ne maîtrise pas mieux le français parce oui. qu'elle serait justement en mesure d'être, et puis là, t'sais, cette force de gauche-là oui. Pour justement les gens qui se retrouvent dans ce discours-là oui, à la ville de
surtout
Québec.
Surtout au centre-ville. Oui. Mais j'ai hâte de la voir au débat parce que elle a le sens de la clip comme Mario Dumont
c'est
à une certaine,
vrai, t'as raison.
À une certaine époque. Et ce que j'aime de lui, moi, je fais de ce que j'aime d'elle. Moi, je suis un gars de transport actif, donc
ouais,
à
ouais.
pied, en autobus. Et donc, elle a des plans de gauche, comme peut-être Mme Plante à Montréal. Donc, si elle gagne, ce qui n'arrivera pas, mm-hmm. en 2000... donc, si elle gagne, dès le mois de janvier, elle va rendre le transport en commun gratuit pour les moins de 18 ans
ouais.
et les plus de 65 ans. Donc, elle est à gauche, c'est assumé, elle fait beaucoup de points de presse mm-hmm. et je ne suis pas un grand fan des programmes de très, très à gauche. Moi, je suis pour le bon sens. Et ça nous prend une conscience au conseil municipal, par exemple.
Ouais.
Donc, avant, on disait que le NPD à Ottawa, c'était la conscience sociale du Parlement. Et je pense qu'elle a sa place... Mm-hmm. Au conseil municipal.
Oui, c'est, ouais. bon, c'est un très bon point. Irénée Rutema, merci oui. beaucoup pour ta présence avec nous en nombre aujourd'hui.
Mais merci pour l'invitation.
Ben oui, puis on se refait ça certainement avec
ouais?
un petit bloc. Oh, oui, on va s'en faire ça.
Excellent.
Avec un petit bloc justement comme ça. Élection municipale, parce que je sais que t'es beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le terrain.
Oui, oui, oui. oui
c'est
oui.
toujours le fun d'aller chercher justement ce qui se passe sur le terrain. Oui. Mathias, je pense que là, tu m'as dit, Jeff, faut absolument qu'on fasse jouer ça. Faut qu'on fasse jouer quelque chose de drôle. Là, j'ai dit, mais qu'est-ce que, Mathias, tu veux que je joue? Et tu m'as juste dit, pay sur play.
Ta communauté font face à d'immenses défis, comme le peuple résilient d'Haïti. Continuons de cultiver ces liens constructifs. Dungasuiti Ilunasi, bienvenue au Canada. Welcome to Canada.
Mais qui est cette personne?
pour ceux qui n'ont pas eu conscience que vous venez d'entendre...
Est-ce que c'est du français?
Ouais, c'est du français.
Ah!
Hey, encore pire que ça, c'est du français qui a coûté 52 400 15 $ aux contribuables canadiens.
C'est un bon investissement. J'aime ça.
C'est le français de la gouverneure générale qu'on a payé des contribuables de 52 000 pour 324 heures de cours de français, de français privé qu'on a donné à la gouverneure générale qui ne savait pas du tout parler français lorsqu'elle a été mise en place à ce poste. Et voilà le résultat de 52 000 $ déboursés pour un Français. Moi, honnêtement, je débourserais ce montant-là pour n'importe quoi. Je serais insulté que ce soit ça.
Vraiment. C'est le caucus de la CAQ cette fin de semaine à Gatineau. Et aujourd'hui, il y a Éric Kerr qui a tenu à défendre François Legault, à ma grande surprise. On l'entend.
Je trouve que c'est un manque de respect pour le chef. C'est un manque de respect pour ses collègues. C'est un manque de respect pour ses électeurs. Maïté est arrivée en 2022. On lui a donné un comté. Elle n'a pas eu à se battre pour. On lui a donné une élection. Elle n'a pas eu à se battre pour. On lui a donné un poste au Conseil des ministres. Elle n'a pas eu à se battre pour. Puis aujourd'hui, elle pose ce geste-là. Je trouve ça... c'est un très gros manque de respect de sa part.
Bref, pour qu'Éric Kerr défende François Legault, c'est qu'on est tous derrière M. Legault et s'il y en a qui s'attendaient à une démission, ça n'arrivera pas.
Ah oui, puis on a vu un caucus très serré, soutenir François Legault. Discours du début de caucus de François Legault. Je vais vous dire une phrase, vous me direz ce que vous en pensez.
Ah ouais,
essayez de ne pas cracher votre gorgée de café, s'il vous plaît. François Legault a dit « Il n'y a personne depuis René Lévesque qui en a fait plus que nous autres, puis on va continuer, on va en faire encore plus.
Okay. »
Les paroles de François Legault aujourd'hui.
OK, je me suis étouffé, cher auditeur de Boulevard 101, tenté de demeurer en vie et surtout de respirer encore, parce que c'est le retour de Gravel qui s'en vient à l'instant même avec Denis Audrey et Véro, nous, pour l'émission, on en jase. On est de retour lundi prochain, midi. Ce sera avec moi, Mathias, et il y aura également le caucus avec Antonine Niaccarini. Je vous souhaite un excellent week-end sur les ondes de Boulevard 102.1. Bye-bye. On se parle la semaine prochaine.
Bonne fin de semaine.